Europe 1.
Bienvenue sur Europe 1, la radio où vous écoutez le monde changer et les journalistes se friter. Chaque après-midi, ils s'affrontent au service de votre culture G. Celui ou celle qui vous aura offert le sujet le plus captivant ressortira d'ici coiffé de la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour en s'exclamant, comme moi bourré à Ibiza l'été dernier à la fin d'une soirée au Pacha,
« Je suis le maître du monde !»
Car oui, si je lève le voile sur ma vie nocturne, c'est que nous recevons aujourd'hui en studio dans l'équipée sauvage déconfinée un des plus célèbres DJ au monde, pionnier de la French Touch qui a continué de mixer de chez lui durant tout le confinement. Bonjour Bob Sinclair.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous nous aviez fait un petit coucou pendant le confinement.
Ouais.
On était tous chacun dans notre canapé chez nous. Alors il y a un nouveau single qui vient de sortir qu'on va écouter. Mmh. On va commencer par là, mais pour beaucoup, le confinement, ça a été l'occasion de lever le pied, de prendre du temps pour soi. Vous, j'ai l'impression que vous n'avez jamais autant bossé que pendant ce confinement.
Alors, j'ai jamais été aussi libre qu'enfermé. Ben, c'est ça qu'il faut dire. Mais
c'est vraiment paradoxal.
C'est marrant. Mais j'ai été content quand même de me poser et d'arrêter de tourner, parce que ça fait 20 ans que je fais 100 dates par an. Et là, voilà, j'avais besoin de réfléchir. Et j'ai mis le nez dans ma culture musicale et dans ma bibliothèque. Et je me suis aperçu quand même que j'avais beaucoup de disques.
Beaucoup de disques. Et surtout, donc là, un mix chez vous tous les jours de 14 à 15 heures, c'est ça?
Ouais.
Et donc, une totale liberté. Parce que j'imagine que, bon, quand vous faites des sessions, les clubs doivent vous demander telle ou telle chose, là vous pouviez mettre absolument la musique que vous vouliez.
C'est pas les clubs qui me demandent, c'est qu'en fait les gens me connaissent à travers mes gros tubes,
donc ils veulent les entendre.
Et ils veulent les entendre et la musique qui va avec.
Ah oui, c'est comme Michel Sardou quand on lui demande les lacs du Connemara.
Ah bah ouais, je pense qu'il a beaucoup aimé.
J'aime bien la comparaison, c'est très sympa.
Ça serait très sympa. Alors, vous allez nous raconter ce confinement à la fois studio et festif, on va parler du nouveau single, on va se demander aussi comment ça va se passer pour les clubs dans les mois qui viennent. Alors vraiment, là, les images reviennent, c'est fou, c'est toute ma jeunesse. Elle, toute sa jeunesse, c'est plutôt... Bonjour Eva Rock.
Salut Mathieu, bonjour à tous.
Je plaisante évidemment, vous êtes jeune et fraîche comme la rosée du matin et vous connaissez très bien Bob Sinclair dont vous appréciez la musique et, disons-le pudiquement, pas que. Inutile d'ailleurs de tourner autour
ça,
du pot,
ça commence.
On va passer deux heures ensemble. Il y a deux fois où Eva a été excitée à ce point, la fois où Nicolas Duvauchel lui a fait la bise et la fois où Shuriken a dit
« Ah oui !»
C'est pas vrai ?
C'est vrai. Ouais.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc la star des dance floors, Bob Sinclair, qui nous accompagne cet après-midi. Est-ce que c'est pas bon ça, Eva?
Ah si.
Est-ce que ça nous donne pas envie d'être déjà?
Qu'est-ce que je vous ai dit ce matin
plage?
À 7h du matin quand on
oui,
s'est retrouvés?
C'est vrai. Ouais. Il y a une sonorité africaine un petit
ouais,
peu dedans.
Ouais, exactement. Ouais. Un métissage comme je fais d'habitude.
I'm on my way, c'est le titre du nouveau single qui vient de sortir. On va en parler. Mais déjà, est-ce que vous avez ressenti une forme de baby blues le 11 mai,
ah, oui.
le premier jour du déconfinement,
totalement.
Quand vous avez arrêté vos mix quotidiens?
Parce que les gens voyaient une heure de mix. En fait, je reprenais des disques de ma collection et je sortais des versions qui faisaient 7-8 minutes. Que je numérisais, mais que j'étais obligé de rééditer, donc de raccourcir.
Et ça prenait combien de temps?
C'est un boulot de dingue.
Une demi-heure par titre. Donc il y avait 16 titres par jour à trouver pour une heure. Et donc, oui, non, j'ai énormément travaillé, mais en même temps, ça a été un bonheur de mettre ma touche un peu à tous ces classiques et les remettre au goût du jour et pouvoir les mixer et les présenter aux gens. En fait, j'avais envie de montrer la musique qui m'avait inspiré tout au long de ces années et c'était une belle opportunité.
Mais est-ce que ça vous donne envie de sortir un album de réédition,
non,
de
pas
remix,
du tout. Non, pas du tout, mais peut-être en tout cas mixer, voilà, live devant les gens, ouais. peut-être d'autres choses, sortir des petites perles comme ça, inattendues.
Vous disiez que vous aviez combien de disques dans votre discothèque?
À peu près 15 000.
À peu près 15 000,
Comme Fred
Goati, non mais pas autant de vinyles, parce que je pense que vous avez...
Moi j'ai quasiment que des vinyles.
Voilà. Ce qui est pas le cas de Fred. 15 000 disques, vous avez fait combien de morceaux là pendant ce confinement? Vous avez mixé combien de morceaux?
880 différents. Mais... Enfin, je mens, 875, mais il y en a 5 que j'adorais et que j'ai joué plusieurs fois.
Et juste une dernière question dans cette partie, comment mixer, il y a un contact avec la foule normalement que vous avez
normalement
en club
ouais,
qui doit vous pousser, qui doit vous donner de l'adrénaline. Là, comment vous faites chez vous? Vous avez
j'ai commencé en ado. Ouais. J'achetais des disques et je faisais des mix dans ma chambre pour me faire des cassettes pour aller à l'école. Donc j'ai retrouvé mon adolescence. Mais ça a été assez magique puisque, comme vous l'avez dit aux parents, je n'ai aucune pression de faire danser les gens. Donc voilà, j'avais deux écrans devant moi parce que un pour Facebook, un pour Instagram. Ouais. J'étais live, je ne savais pas à quoi m'attendre et je pouvais mixer ce que je voulais au moment où je voulais. Donc les gens restaient, les gens partaient, peu importe. En tout cas, j'étais complètement désinhibé.
Résultat, 100 millions de spectateurs, et pas de téléspectateurs, soit 12 000 de plus qu'un podcast de l'équipe est sauvage. Je dis chapeau l'artiste. Vous écoutez l'équipe sauvage, deux heures pour gainer vos zygomatiques, booster votre culture G, mais sans pour autant se claquer un neurone. Le géant des platines, Bob Sinclair, est notre invité d'honneur. Alors, Bob Sinclair, ça fait longtemps que vous êtes au top. C'est ma question longévité. Toujours, toujours délicate à tourner cette question, sauf pour Eva, qui, elle, ne se gêne pas pour mettre les pieds dans le plat.
Bah non.
Comme quand on avait reçu le rappeur Oxmo Puccino. Moi, j'y allais tout en finesse, elle. Alors, Oxmo, j'ai l'impression que les rappeurs n'aiment pas trop quand on leur fait le coup de. Vous êtes justement ce que je disais, une légende, pionnier du rap français.
C'est peut-être à cause de votre âge, non? Mais je le dis sans.
Je cherchais une manière de le formuler finement.
Mais non, mais pardon.
Bravo Eva. Alors,
non, mais c'était vrai.
Ce qu'Eva veut dire, c'est simplement qu'effectivement, autant dans n'importe quel métier, 50 ans c'est jeune, autant pour les rappeurs et les DJ, eh ben, on n'est pas habitué à avoir des carrières si longues.
C'est fou, hein.
Comment? Mais oui, c'est nouveau. En fait, vous êtes un pionnier de tout.
C'est parce nouveau, en fait. Comme on n'avait pas d'exemple de DJ qui avait cartonné à l'époque ou de plan de carrière, il n'y a pas de DJ à la retraite. Non, mais c'est vrai que ce soit même Carl Cox doit avoir 56, 57. Oui, oui, bien sûr. Il n'a jamais même été aussi présent dans les festivals et aussi charismatique qu'aujourd'hui.
Mais vous voyez mixer jusqu'à quel âge?
Mais je ne sais pas. Mais quelles sont ces questions? Tant que physiquement, je me sentirais apte à faire des tournées de 100 dates et puis d'être en osmose comme ça. Avec du partage, avec tout le dance floor et tous les jeunes qui sont là, j'ai pas l'impression d'être hors sujet pour le moment.
Alors, il y a un message qui est important à passer à tous les jeunes qui nous écoutent et qui imaginent que DJ c'est un métier où on prend de la drogue pour rester au top et tout ça. Pas du tout. Vous êtes le prototype inverse. Vous êtes votre credo, c'est la healthy life, la vie saine. C'est mon credo. Vous dites, je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai jamais touché aux substances, je n'ai aucun signe qui me dit d'arrêter.
J'ai jamais commencé.
Et vous avez jamais commencé?
Non, parce que je voulais être sportif professionnel à l'époque. Quand j'étais tout jeune, footballeur, bon, pas de talent, tennisman, pas de talent. Et la première fois que je suis rentré dans un club, j'ai dit, bon, alors je bois pas, je fume pas, machin, bon, on va un peu draguer. Mais finalement, le DJ, cette espèce de personnage derrière des platines qui manipulait des vinyles et qui manipulait aussi, grâce à ces vinyles, une foule de gens avec un échange d'énergie comme ça, ça me plaisait énormément. Je suis tombé amoureux de ça et je passais mes nuits derrière lui à regarder, à noter les disques qu'il jouait et à les acheter ensuite et les mixer moi dans ma chambre d'ado.
Moi, je comprends tout à fait la démarche, comment en plus cette envie d'être un sportif professionnel, donc du coup cette approche saine de la vie. Par contre, ce qui me paraît plus incroyable, c'est qu'à aucun moment de votre carrière, quand vous avez commencé à être une énorme star, vous ne soyez pas tombé
dans
cette tentation.
Mais pour quelle raison? Il n'y a pas, c'est pas forcément une tentation. Si on n'aime pas ça.
Non.
S'il n'y a pas de...
Oui, mais oui, non, c'est vrai.
Mathieu,
vous n'avez pas un tempérament addictif pour quoi que ce soit.
Si, mais pas pour ça.
Pour le sport, par exemple,
j'aime le sucre, donc j'aime bien passer devant une boulangerie. Je me dis, mince, non, tu peux pas, mais si, tu vas y aller.
Mais comment vous êtes mince, tout comme tout, là? Vous êtes incroyable.
Oui, mais il faut une bonne balance.
Oui.
Une bonne balance de tout, bien sûr. Ouais.
Donc, la morale de l'histoire, pas de coke, des pains au chocolat, et vous serez un bon DJ. Enfin, il faut un peu de talent aussi. Vous écoutez l'équipe sauvage. Riyad Sattouf est notre invité arbitre du jour pour fêter la sortie jeudi du tome 5 des célébrissimes Cahiers d'Esther. Comment vous vivez un tel succès? 650 000 exemplaires vendus pour les 4 premiers tomes. Est-ce que vous vous dites, parce qu'il faut dire que c'est excellent, enfin je veux dire, c'est vrai que c'est excellent, mais parfois le succès n'est pas au rendez-vous, même quand on produit quelque chose qui est excellent. Est-ce que vous vous dites, il y a une part de chance quand même, de timing, enfin comment vous vivez ce succès?
Disons que j'ai toujours été obsédé et passionné par les livres. Les livres au sens large, c'est-à-dire même quand je gagnais beaucoup moins bien ma vie, l'essentiel de mon argent, j'achetais des livres, j'achetais des éditions originales. Et donc, c'est vrai que j'ai juste l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une continuité. Enfin, je fais ça depuis longtemps quand même, ça fait 20 ans que je fais des livres. J'ai toujours rêvé d'avoir beaucoup de lecteurs. Donc, je suis hyper heureux. Je ne sais pas comment. Je ne réfléchis pas trop à ça, en fait. C'est vrai que si demain j'avais plus de succès, je crois que ça ne changerait pas tellement ma vie parce que je continuerai à réfléchir au livre, le prochain livre que je vais faire. Enfin, voilà, tout ça pour dire que pendant 15 ans, j'ai pas eu tellement de succès.
Mais alors, avec la fermeture des librairies pendant le confinement,
c'était horrible.
C'est la première chose que vous avez faite au moment du déconfinement, dans une librairie.
Et puis c'est vrai qu'il y a eu pas mal de libraires qui ont commencé à mettre en place le truc de commander sur internet et de venir le chercher. Alors j'ai sur Instagram, je les ai soutenus, etc. C'est vrai que c'était pour moi, c'est un truc vital, en fait, les librairies, et que ça s'arrête comme ça. Donc là, je suis de retour à Paris, je vais retourner dans mes petites bouquineries où je passe mes journées. Non,
et quand ils vous voient arriver, les libraires se disent ça, et les affaires reprennent. Une dizaine de bouquins d'un coup. Alors, Riyad Sattouf, lorsqu'on est invité de l'équipe sauvage, on est invité, mais on est aussi arbitre. Or, voici notre deuxième concurrent du jour, notre expert économie, Axel de Tarlet. Son atout premier, la concision, et parfois, hélas aussi, son défaut, quand au bout de 1 minute 15 de chronique... Alors.
Mais j'ai terminé. Quoi ? Alors.
1 minute 15 de chronique, record battu la dernière fois. Alors, Axel, aujourd'hui, vous allez tenir la distance, j'espère.
Court, mais bon.
Oui, d'accord. Oui. C'est ce que dit votre femme aussi. Mais néanmoins, là, dans le cadre d'une émission de radio, j'aimerais bien une chronique qui fasse 3 minutes. Alors, Axel de Tarlé, vous nous parlez de la Grande-Bretagne, qui est un des pays les plus touchés, finalement.
Le pays le plus touché. Donc, alors, effectivement, en nombre, ils ont 40 000 morts. Ils ont dépassé les 40 000 morts. Nous, on est à 29 000. Mais si vous regardez la surmortalité, c'est le Financial Times qui donne ces chiffres. La Grande-Bretagne a 67% de plus de morts que d'habitude. La Belgique, qu'on dit très touchée, c'est 53. La France, 30. Ces chiffres de ce matin. Les États-Unis, 26. Et l'Allemagne, 6. Donc, vous voyez, et ils s'interrogent, les Anglais. Pourquoi sommes-nous le pays avec la plus forte surmortalité à cause du Covid ?
Peut-être leur système de santé ?
Non, c'est aussi, beaucoup disent-ils, parce qu'ils sont partis plus tard que les autres.
Ah, oui, ça, on s'en souvient.
Parce qu'on se souvient que Boris Johnson, même, il se vantait, souvenez-vous. Ce matin, je suis allé dans un hôpital, j'ai serré les mains à tout le monde, etc. Boum.
Le père de Boris Johnson, d'ailleurs, c'est terrible, parce que Boris Johnson a quand même failli y passer. Le père de Boris Johnson se vantait à la télé d'aller, de continuer d'aller au pub. Il parce qu'on va au pub, ça fait partie de la culture anglaise.
Et ben, résultat, le Boris, il a eu le Covid. Ouais. Hein. Et en fait, ce qui est intéressant, ce que disent les spécialistes de la Grande-Bretagne, ils disent derrière cette arrogance un peu de dire le Covid ne passera pas par nous, il y a la même arrogance que vis-à-vis du Brexit. Au fond, on n'a pas besoin de l'Union européenne pour s'affirmer dans ce monde. Au fond, la Grande-Bretagne, par son insularité et par son glorieux passé, est plus fort que les autres et nous nous en sortirons. Vous voyez, Hitler ne nous a pas eu, Napoléon ne nous a pas eu, le Covid ne passera pas par nous. Bah si, la Grande-Bretagne a été durement rattrapée. Et c'est dans ce contexte, puisque je parlais du Brexit, qu'ils sont en train de négocier le Brexit. Et là aussi, figurez-vous que le Covid porte un coup très dur au Brexit, parce que le Brexit, c'est un chantier très très compliqué, qui se fait, c'est amusant, c'est Michel Barnier qui vient de le révéler ce week-end dans le Figaro. Il dit, écoutez, c'est des négociations, on est 200 de chaque côté. Alors déjà, c'était compliqué en face à face. Maintenant, on fait ça par visioconférence. Donc, il dit, c'est indémerdable, quoi. Parce qu'autrefois, ce genre de négociations très compliquées pouvaient avancer dans des face à face. On se voyait à deux, à la machine à café, dans les couloirs, on approfondissait un sujet et on arrivait à débloquer les situations. Là, en visioconférence.
Et donc, ça va traîner encore pendant combien
voilà,
de temps ?
Sauf qu'il y a une date. Hein, il y a une date. Et si au 31 octobre, parce qu'à la fin, il faut quand même qu'ils votent. Donc, si au 31 octobre, ils n'ont pas réglé le problème, ils sortent sans accord, ce qui veut dire droit de douane sur les produits britanniques qui viennent en Angleterre. Nissan a dit, moi, je ferme mon usine de Sunderland, qui exporte à 80% au Royaume-Uni. Si vous me collez 10% de droits de douane sur mes cache-caille, j'en vends plus une.
Ils ont vraiment pas de chance, Sunderland, déjà, qui sont nuls en foot.
Et oui, mais ils avaient voté pour le Brexit à plus de 65%. Hein. Donc oui, mais tout ça pour dire, vous ajoutez en plus qu'ils n'ont pas de foot. Si vous voulez, les Anglais, ils ont quand même un gros coup au moral en ce moment. J'ajoute qu'ils sortent pour retrouver la liberté. Et vous savez, il y a une pétition en ce moment en Grande-Bretagne. Ça veut dire quoi, la liberté ? Ça veut dire qu'on est libre de négocier ce qu'on veut avec n'importe qui dans le monde. Donc, Donald Trump, en ce moment, est en train de faire le forcing pour exporter, en gros, le poulet au chlore et le bœuf aux hormones.
Sympa.
Donc, les fermiers britanniques sont affolés. Il y a une pétition en Grande-Bretagne.
Il fallait y penser avant, les gars.
Eh bien oui, ils se sont crus plus forts que tout le monde, en mesure d'imposer au reste du monde leurs normes. Et voilà, et ils se retrouvent sans foot, enfermés parce qu'il y a une quarantaine chez eux, avec ce qui va leur tomber sur la figure du poulet au chlore bientôt. Donc là, le Brexit qui devait être une libération s'avère un terrible enfermement.
Et là, l'invité se dit,
pauvres Anglais.
Et l'autre me parlait d'invisibilité.
Et surtout, en train de taper sur Google, il tape dauphin d'or. Il dit, mais quelle est cette récompense? Comment est-elle attribuée? Comment est récompensée le meilleur journaliste économique? Oui, c'est très bien, mon Excel. Vous êtes très bien, bravo. Le prestige culturel d'une soirée Théma d'Arte, la violence d'un combat de coq baliné dans un entrepôt clandestin. Vous écoutez L'Équipée Sauvage. Nous sommes en fait très belle illustration sonore d'un combat de coq baliné avec des bruitages de poules. Nous sommes entrés dans le Money Time. Ben est notre invité d'honneur pour la sortie de son nouvel album Addicted to You. On est allé un petit peu vite sur l'album de 2016, Under My Skin de Sinatra, qui moi m'a beaucoup plu. Est-ce que vous avez été un peu inspiré par ce qu'avait fait à l'époque Robbie Williams quand il a repris des standards du
Rat Pack? Ça, vous l'avez aimé, cet album.
J'avais adoré cette soirée au Royal Albert Hall. Ça s'appelait Swing When You're Winning. Est-ce que c'est quelque chose... Vous avez écouté cet album, vous avez dit, tiens, mais je peux faire pareil?
Non, pas du tout. En fait, j'étais plus à m'inspirer de James Blake et des trucs qui sont complètement presque à contre-pied sur un truc beaucoup plus intimiste dans la production. Moi, je voulais pas m'imposer en tant que crooner, mais plus revisiter des titres qui sont justement un peu intouchables, parce que le jazz, c'est quelque chose de toujours placé un peu sur un piédestal, etc.
Ouais,
bon, moi, je voulais désacraliser le truc... Parce que voilà, c'est avant tout des très belles compositions et ça peut être joué de plein de manières différentes, c'est ça qui est cool. Ah, je voulais que vous fassiez celle-là. Yes, I
Avec lui, les amis, pas d'impro, comme dans le jazz, tout est carré, normal, il est scientifique. Même si les scientifiques aussi ont besoin de carburant. Pas vrai, Alain ?
Même un jour, j'ai bu tellement j'en avais marre.
Oui. Aujourd'hui, Alain Siroux, vous nous proposez de résoudre une énigme vieille de 112 ans. Et alors, attention, Alain, attention, parce que Ben, qui a l'air de beaucoup vous apprécier avant même de vous connaître, dit que vous avez l'air très sympathique, mais il n'a rien compris à votre introduction tout à l'heure. Donc, essayez de nous expliquer ça tranquillement. De quelle énigme nous parlez-vous ?
Ben, je vais vous décrire ce qui s'est passé. Il faisait très très beau ce petit matin du 30 juin 1908.
Soyez plus précis, je ne comprends pas.
Il faisait très très beau ce petit matin de 1908, hein, le 30 juin, au-dessus de la rivière Tunguska, on est en pleine Sibérie, quand quelque chose, je mets des guillemets, a transformé cette paisible région en un monde post-apocalyptique. Il y a eu une lumière, une explosion, des flammes. Un souffle brûlant et puis une onde de choc qui a été enregistrée jusqu'à Irkoutsk, hein, sur les bords du lac Baïkal, à 1500 km de là. Oula. Et plus à l'ouest, en Belgique, en Angleterre et jusqu'aux États-Unis, le fond du ciel, la nuit, s'est mis à luire. Les nuits n'ont plus été les mêmes pendant quelques semaines.
Alors, qu'est-ce qu'ont découvert les scientifiques qui, à l'époque, se sont rendus sur place ?
Alors, vous savez, c'est une région extrêmement éloignée. Il y avait des troubles en Russie et il a fallu attendre 20 ans avant qu'une expédition arrive sur les lieux et découvre sur place une forêt entièrement dévastée. Imaginez 2000 km² de taïga, c'est-à-dire l'équivalent d'un département français entièrement soufflé par l'onde de choc. 60 millions de mélèzes sont couchés sur le sol et leurs troncs pointent en direction d'un vaste marais dans lequel on trouve rien du tout. Pas de cratères, pas de cailloux, pas de poussière. Il n'y a rien. Et toutes les expéditions qui vont suivre jusqu'à aujourd'hui vont faire le même constat, quelque chose dont l'énergie, alors pardonnez du peu, hein, est évaluée à 1000 fois la bombe atomique d'Hiroshima, a explosé au milieu de nulle part.
Et alors attendez, ce n'est pas une météorite. Il n'y a pas de cratère. Ça ne peut pas être une météorite.
Exactement. D'abord, on a pensé à ça. Mais vous savez, un énorme caillou, ça laisse des traces. Là, le problème, c'est qu'il n'y a ni débris, ni cratère. Alors, on a imaginé que ça pouvait être un morceau de comète. Vous savez, les comètes, c'est des noyaux de glace, d'eau mélangés à de la poussière. Sauf que là encore, dans la tourbe, on aurait dû trouver des traces. Il n'y a rien. Alors, il y a eu des tas et des tas d'explications exotiques qui vont du crash d'un vaisseau extraterrestre, ça, je pense que ça va vous plaire.
Ça, j'adore ça.
Voilà. À la collision avec un micro-trou noir. On a inventé des tas de choses, bref, de la science-fiction, mais on ne savait pas.
Et aujourd'hui, l'enquête a avancé. 112 ans après, on a des éléments nouveaux. Comment c'est possible ?
Exactement. Alors, c'est une publication scientifique signée par des chercheurs russes qui ont modélisé une collision entre... Alors, tenez-vous bien, il s'agirait d'un astéroïde de 200 mètres de diamètre.
Ah, et alors, donc, j'avais raison.
Alors, attendez, qui aurait traversé l'atmosphère terrestre et ricoché comme un caillou à la surface d'un étang. Il serait arrivé très, très vite, hein, 20 km par seconde. Il se serait échauffé à près de 10 000 degrés. Il aurait frôlé la surface terrestre à 10, 15 km d'altitude au-dessus de la Tunguska, avant de rebondir et de repartir dans l'espace.
Mais
vous voyez, et en fait, au sol, on ne trouvait rien parce que c'est l'onde de choc qui aurait provoqué les dégâts qu'on a pu observer.
Ah.
Donc, on aurait eu l'onde de choc, mais pas le choc.
Mais pas l'impact.
Ce qui est étonnant, Alain, dans cette histoire, c'est qu'on devrait avoir des précédents dans l'histoire. Je n'ai jamais entendu une histoire comme ça. Et ça aurait dû se produire à un autre endroit, un astéroïde qui ricoche.
Ouais, ça s'est peut-être produit, mais vous savez, comme même si c'est 1908, on peut parler d'époque moderne. Donc, on avait des sismographes, on enregistrait. Il y a des traces. On peut sans doute remonter dans le passé, mais on a peu d'informations. Donc l'histoire d'un astéroïde qui tueur, qui ricoche, ça a dû arriver. C'est quand même probablement extrêmement rare. Mais je trouve que cette résolution de l'énigme de la Tunguska, qui moi m'a fasciné quand j'étais petit, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a explosé ?
C'est là que vous êtes mis au pastis d'ailleurs, parce que vous avez vu pour oublier, parce que vous ne compreniez pas.
C'est marrant parce que moi je pensais à l'eau, je me disais en fait ça pouvait aussi arriver en pleine mer et donc auquel cas on aurait
un tsunami.
Exactement. Et on a des traces, vous avez raison Ben, on a des traces de tsunami dont on n'arrive pas à identifier l'origine. Et ben ça pourrait en faire partie. Bravo.
Vous écoutez l'équipe Sauvage spéciale vacances d'été. Un été qui, avec les mesures de distanciation sociale, s'annonce un peu moins chaud que d'habitude. Au grand dam d'Eva, qui a l'habitude d'aller se détendre dans un resort adult only à Lanzarote, où elle pratique déjà, cela dit, une forme de distanciation sociale, en tout cas dans les moments clés.
Je te prie de faire très attention, je ne prends pas la pilule.
Alors, cet été va être un peu différent, ne serait-ce que parce que beaucoup d'entre vous vont le passer en France. Mais l'été en France, c'est formidable, comme nous l'explique depuis tout à l'heure Philippe Glohagen au micro d'Eva Rock.
Mais oui, alors Mathieu vous a un peu charrié en début d'émission, Philippe Glohagen, en disant que vous aviez un job de rêve, hein, c'est-à-dire payé quand même pour, pour aller visiter des pays et même visiter la France. Mais plus sérieusement, comment vous faites pour recruter vos journalistes? C'est quoi la principale qualité que vous recherchez chez un collaborateur?
La passion. La passion du voyage, la passion de la découverte. Effectivement, on est payé pour découvrir et transmettre. Et ensuite, cette passion-là, il faut l'écrire. Mmh. Donc, il faut avoir un sentiment un peu fort entre les mains et cette volonté de transmettre, d'expliquer comme un instituteur, comme mon papa autrefois.
Et je crois que vous avez une particularité à la sein, au sein de la rédaction en chef de votre, du Guide du Rotard. Il y a beaucoup de femmes. Si
beaucoup de femmes, oui, ouais. C'est même la majorité. Alors la parité, quand il y a des manifs au Guide du Routard, c'est plutôt les hommes qui font les manifs. la rédaction en chef est en alternance, c'est-à-dire il y a un garçon et il y a une fille, mais les responsables d'édition, donc c'est des responsables de zone, des responsables de pays, ce sont plutôt des femmes.
Oui, parce que je me demandais comment vous attribuez tel pays à tel journaliste, à la courte paille ou c'est parce qu'il a des compétences
Non.
Avec, heureusement que c'est pas vous qui dirigez le Routard. Eva, hein. Toi, la courte paille. Mais moi, je parle chinois, c'est bien. On t'envoie en Inde.
Mais pour le coup, ça pourrait être intéressant parce que vous, quand vous voyagez, quand vous partez en Chine, par exemple, vous savez pas parler chinois. Donc, il faudrait que, si, pour que le Routard il soit vraiment à votre niveau, il faut que ça soit quelqu'un qui soit dans les mêmes conditions que vous, par exemple. C'était pas totalement idiot, ma remarque.
Oui, mais c'est pas un problème de langue. C'est un problème de culture. Donc. Effectivement, mon collaborateur responsable Gevins sur la Chine ne parle pas chinois, mais il est passionné de l'histoire de la Chine. Il écrit, il a surtout lu énormément de bouquins sur Mao, sur un tas de choses très proches et contemporaines. Et il a envie de transmettre. Il est allé partout en Chine. Et c'est cette culture-là qui est importante. C'est une culture du terrain et c'est le propre du Guide du Routard.
Et c'est la France que vous connaissez le mieux de tous les pays?
Non, je vous dirais, il y a vraiment des endroits que je ne connais pas si bien que cela en France. Je vous dirais que je connais un peu tout. Assez concentré sur des zones où j'ai des amis, on s'est fait des amis sur place, en particulier en Martinique, au Maroc, en Inde aussi, qui est un peu le démarrage du Guide du Routard à l'époque de la route des Indes, et puis beaucoup de pays européens. Mais peut-être que le pays européen que je préfère après la France, c'est l'Espagne.
Ah oui.
Je parle espagnol, j'y vais très souvent, au moins une fois par an. Et la culture espagnole, c'est la culture des Hidalgo, c'est-à-dire Axel de Tarlé, c'est-à-dire la noblesse, l'aristocratie. On la retrouve vraiment en Espagne.
Cet été, on va rester en France.
Oh, voilà. Bah, oui.
Parce qu'on n'a plus trop les moyens. Voyage France, c'est le livre dont vous avez besoin pour préparer l'été. Un été français, mais un été olé olé quand même. Philippe Glohagen, le fondateur du Routard, reste avec nous. Vous écoutez l'Équipée Sauvage spéciale vacances d'été avec l'invité idéal aujourd'hui pour ce thème. Philippe Glohagen, vous êtes le cofondateur du Routard et un de vos derniers ouvrages, Voyage France, nous permet de préparer un été franco-français, certes, mais alors plein de surprises, car parfois, la surprise est à 30 km de chez nous.
Ouais. Vous avez des endroits absolument fabuleux. Il y a quelques années, j'avais même sorti un guide du Routard sur les banlieues. Il se trouve qu'il y ait des endroits absolument splendides, oubliés, que ce soit le musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux, à côté de chez vous. Au niveau gastronomique, on en parlait. Vous avez les pêches de Montreuil, une invention particulière d'un jardinier de l'époque, de planter les racines à l'ombre, mais par contre, l'arbre, le pêcher, était au soleil. Bon, bah, ça, c'est des petits murets de Montreuil, existent toujours. Vous avez le cresson d'Hermenonville, vous avez un tas de Méréville, pardon, et c'était toute la ceinture maraîchère de Paris, qui est un peu oubliée avec le déménagement des Halles, qui autrefois jouait beaucoup sur les petits producteurs. On en a même fait une expression. Gagner de l'oseille. Gagner de l'oseille, c'était les maraîchers de la banlieue parisienne qui rapportaient de l'argent vite fait, bien fait et en liquide.
Quand j'entends la culture de Philippe, je me dis que vous allez vraiment dérouiller dans le quiz aujourd'hui. Justement, allons-y. Sénèque disait « On n'échappe pas à son destin, c'est pourquoi il vaut mieux l'affronter en face. » Ou alors c'était Moundir de Koh-Lanta, je ne sais plus. Une chose est sûre, c'est l'heure du quiz. Depuis toute petite, Eva épate ses professeurs par ses compétences géographiques.
Quel est le fleuve qui traverse Paris ?
La Seine ?
Oh ! Ah bah dans l'éducation nationale, hein, ils ont comme consigne d'encourager les enfants. Alors, Eva, vous êtes prête ?
Allez, allons-y.
Allez, c'est parti pour le quiz.
La Seine !
Bravo, Eva. Philippe Gueguet, cet été sera l'occasion, on l'a dit, de redécouvrir les beautés de la France. On va donc faire un quiz sur ce qui s'est passé dans nos régions durant le confinement. C'est parti. Eva Roque.
Oui.
Parce qu'il avait envie, pendant le confinement, d'escalader la tour Eiffel, Sébastien Vettier, en Ille-et-Vilaine, a construit dans son jardin une tour en fer de 3 mètres de haut. Il l'a grimpée 108 fois, ce qui fait 324 mètres au total, l'équivalent de la tour Eiffel, vrai ou faux.
3 mètres, c'est pas haut, c'est ridicule comme truc. Non,
ce n'est pas la
faux.
Question.
Non, c'est faux.
Il a voulu faire un défi.
Non, mais c'est pas 3 mètres. S'il a voulu vraiment faire un défi, c'était pas 3 mètres de haut, sinon il est ridicule, le garçon.
Mais il l'a fait, il l'a grimpé 108 fois pour faire l'équivalent de grimper
oui,
la tour
mais
Eiffel.
D'accord, mais
je vous aide, hein, mais donc c'est la réponse est.
Et vrai.
Oh, mauvaise réponse, Eva, quel dommage. La faute a pas de chance, c'était faux, Eva.
Oui.
Malheureusement, en revanche, il a fait 120 fois le tour de son garage en escaladant sans mettre le pied à terre, soit 4810 mètres, l'équivalent du Mont Blanc.
D'accord.
C'était ça la véritable histoire.
Il s'ennuyait, le garçon, tant mieux pour lui.
C'était le confinement, s'ennuyait.
Oui.
Philippe Gueguen. Ah, vous avez déjà une longueur d'avance. Dans le département du Bas-Rhin, pendant le confinement, un trafic de drogue a été démantelé. Les policiers se sont aperçus que les dealers avaient un geste commercial sympathique envers leurs clients. Ils offraient, en plus de la drogue, des masques et du gel hydroalcoolique. Vrai ou faux ?
Vrai.
C'est vrai ! Oh ! Ils appelaient ça le kit coronavirus, un masque et une fiole de gel offerts pour tout achat.
C'est
le sens du commerce. Philippe Gueguen et Varoc, vous répondez tous les deux à cette question. Pendant le confinement, les excuses pour sortir étaient parfois assez cocasses. Oui. En voici trois. Une seule est fausse. Laquelle ? Un homme avec un boa autour du cou qui a dit « Il faut que mon serpent prenne l'air ». Un autre qui a dit « Je n'ai pas de chien, mais je promène mon fils, c'est pareil ». Et le dernier qui a dit « Je suis sorti pour voir si c'était vrai qu'on n'avait pas le droit de sortir
». Ah non, elle est vraie, je suis sûre qu'elle est vraie, j'espère.
Alors, laquelle est fausse parmi
moi, j'aurais dit le père et le fils, là, pour sortir mon fils.
Philippe ? Le boa.
Le boa, eh bien, aucun point n'est marqué, puisque la réponse était « Je suis sorti pour voir si c'était vrai qu'on n'avait pas le droit de sortir
».
Elle était inventée, mais c'était drôle.
Ouais.
L'homme au boa était dans les rues de Marseille et la dame qui promenait son fils était à Bordeaux. Eva Roque, une destination pour vous. À Ménil-sur-Auger, il y a le musée de la vigne et des capsules de bouteilles de champagne. Vous pouvez y voir le plus grand tableau au monde fait exclusivement avec des capsules de champagne, 12 mètres de long sur 3 mètres de haut. Vrai ou faux ?
Des capsules de champagne ?
Oui.
Ah, les capsules.
Oui, je sais pas. Oui.
Non, d'accord. Oh, si je vous dis ce que j'entends. C'est à quoi j'entends.
Vous pensiez à des capsules Nespresso qui feraient du champagne. C'est ça que vous étiez en train de penser. Non, mais emmenez-nous au cœur de votre cerveau, c'est toujours intéressant pour les auditeurs et pour la science en général.
Je crois que j'ai envie d'un café en fait. Pourquoi pas ? Oui, vrai.
Vrai ?
Oui.
Vous êtes sûr de votre réponse, Eva ?
Oui, je suis vrai.
Ouais, c'est une bonne réponse. Ouais. J'ai pas réussi à vous déstabiliser cette fois. 42 000 capsules, 160 couleurs différentes. 6 personnes ont travaillé 250 heures pour réaliser cette fresque. Sachez que les placomusophiles sont les collectionneurs de capsules de bouteilles de champagne qu'on appelle les muselets. Philippe Gueguen, à Mandelieu-la-Napoule, un glacier propose une glace goût vanille, fraise et Covid. Vrai ou faux ?
Oh, quelle horreur ! Mais vous êtes bête !
Mais c'est pas moi qui ai créé ta glace ! Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou faux ?
Faux.
C'est faux et vous avez raison, mais ça existe, sinon la question n'aurait pas de sens. C'est à Milan, en Italie, c'est une glace présentée comme consolant du drame qu'a été le Covid et est au chocolat blanc et sauce pistache. La photo de la glace a été postée sur les réseaux sociaux. 2 heures plus tard, le marchand de glace en a vendu 4,5 kg. Voilà. C'est Philippe Gueguen qui remporte le quiz. Quelle surprise. Nous volons de surprise en surprise dans cette émission. Vous écoutez L'Équipe est sauvage, deux heures à la frontière de l'info et du rire en compagnie d'une invitée que j'adore en tant qu'actrice et également en tant que femme, mais que jamais, au grand jamais, je ne me permettrai de draguer. Tout simplement parce que j'estime, non, j'estime qu'on ne mélange pas le travail et les sentiments. Néanmoins, chère Elsa Zilberstein, j'ai décidé maintenant de tamiser un peu les lumières du studio et de vous emmener sur la Côte d'Azur. Laissez-moi juste m'asperger de quelques pchites de dracar noir. Oui, je sais, je peux être assez charmant quand je veux. Ah, attendez une seconde, Elsa, j'ai mon assistante en ligne. Oui, Marie.
C'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans l'anus, hein, mais c'est jeudi.
Bien, alors, bon, alors revenons plutôt à la compétition, oublions la drague. Frédéric Michel, notre correspondant à Nice, est en duplex avec nous. Alors, comme ça, Fred, vous avez cru voir un élan sur la Côte d'Azur. Tout va bien.
Oui, bah, souvenez-vous, en novembre dernier, je vous annonçais la réintroduction d'élan dans les Alpes-Maritimes, à Torrent précisément, une réserve sauvage qui accueille déjà des bisons, des chevaux de Przewalski. Hein. Ce sont les chevaux représentés sur les murs de la grotte de Lascaux. Et ici, on est dans la première réserve d'Europe où l'on a réuni les grands mammifères. Il y a aussi des cervidés, des cerfs, des daims. Et donc, depuis l'automne, trois femelles élan. Un mâle est attendu prochainement. Et l'une de ces femelles est arrivée de Suède avec le ventre plein. Et bébé élan est né il y a quelques semaines. Je l'ai vu, il est tout petit, hein, 60 cm de hauteur environ. Il arrive à peine à se hisser à la hauteur des mamelles de sa maman. C'est tout mignon, tout beau, tout poilu, presque comme vous, Mathieu. Et nous devions, hein, dans cette émission, revenir dans ce parc des Monts d'Azur, hein, pour vous faire partager cette heureuse nouvelle, car c'est ça le suivi de l'info, d'autant que cette naissance est exceptionnelle. Voilà 2000 ans qu'un élan n'était pas né sur la Côte d'Azur. Patrice Langour est vétérinaire. Il est spécialiste de la vie sauvage. Il a créé cette réserve des Monts d'Azur avec son épouse Alena.
C'est vrai que oui, sans doute, ça fait au moins 2000 ans que sur la Côte d'Azur, il n'y a pas eu de naissance d'élan en liberté ou semi-liberté et surtout de naissance au milieu d'autres animaux. Donc voir cette mère élan qui regardait son jeune jouer avec des chevreuils, c'est un moment plus qu'émouvant. Ça en dit long sur la nature et sur le regard qu'on doit avoir, cette tolérance qui existe naturellement.
Ah ben il est là, regarde, tu le vois. Regarde-le, t'as vu comme c'est petit ?
Et alors, maintenant qu'on est déconfiné ces élans, on peut les voir facilement, Frédéric Michel ? J'imagine que la réserve, c'est très grand. Ils ne sont pas effrayés par la présence de l'homme ou d'autres congénères comme les bisons ?
Non, pour l'instant, ils sont en zone d'acclimatation, hein, dans un vaste enclos où l'on peut les apercevoir assez facilement. Ils ne sont pas encore au contact avec les autres animaux. Hein. Ces élans nés en captivité dans des eaux doivent avoir une période d'adaptation. Hein. Il faut aussi les habituer à la présence de l'homme pour éviter qu'ils se carapatent à 1500 mètres d'altitude, hein, au fin fond de la réserve. Ici, il y a de la place. Hein. La réserve, c'est 400 hectares de forêts et prairies. D'ailleurs, une colle, Eva et Mathieu et Elsa.
Pas un truc géographique. Hein.
Vous savez ce que mange un élan ?
Ah, pas du tout.
Des feuillages, oui.
Alors non, ce ne sont pas des herbivores, mais bien des folivores, donc des feuillages. Ils raffolent de feuilles.
Ah bah, c'est ce que j'ai dit, des feuillages.
Ah, vous avez gagné, Mathieu.
Ah, oui.
Mais en fait, ils aiment aussi l'herbe. Et cela, on ne le savait pas vraiment, car en les observant dans les eaux, on ne les avait jamais vus brouter. Normal, les pelouses sont assez rares, hein, dans les eaux. Oui. Alors qu'en pleine nature, lorsqu'il y a de l'herbe, les élans, si je puis dire, ne crachent pas dessus. Et c'est ça aussi l'intérêt de ce projet, c'est de voir comment se comporte finalement la nature.
Et une idée sortie pour les petits bouts de choux sur la Côte d'Azur. Des élans sur la Côte d'Azur et pourquoi pas du sirop d'érable dans la piste saladière. Pauvre France, merci quand même Frédéric Michel. C'est l'heure du mix, pas hélas de notre invité Bob Sinclair, c'était trop cher pour nous par rapport au budget d'Europe 1.
Ça c'est très mauvais esprit, parce que je peux jouer, j'ai joue gratuitement, j'y ai joué tous les jours, non, l'argent franchement...
Ça, bon. C'est vrai que vous avez joué gratuitement tous les jours, c'est ouf hein. C'est vrai que c'est incroyable.
Mais oui, non, mais c'est pas, on fait pas ça pour l'argent, je veux dire. Mais là,
oui, enfin, il faut bien vivre quand même. Parce que...
Oui. Alors là, suite à ce confinement, j'ai appris que la SACEM, Facebook et la SACEM, s'étaient mis d'accord pour rétribuer les artistes qui avaient fait des lives pendant le confinement. Donc c'est des belles initiatives.
C'est une bonne chose pour les artistes. Mmh. Eva, c'est votre mix à vous.
Oui, c'est le nôtre avec Sébastien Bordonnave. Alors nous, on scrute plutôt les réseaux sociaux pour dénicher des séquences un peu décalées qui sont en prise avec l'actualité. Et aujourd'hui, je vous propose nos confrères de Combini qui ont interviewé un membre de Greenpeace qui nous explique pourquoi manger 100% français, c'est pas forcément bon pour la planète. J'ai bien dit pas forcément bon. Et puis vous allez découvrir la jolie voix de Clou. Elle vient de sortir un single comme au cinéma dont le clip est signé Vincent Delerme. Et écoutez bien, elle reprend la balade de Jim d'Alain Souchon.
Jimmy, t'es fort, mais tu pleures sur le cuir de ta Chrysler. Là-bas, le soleil s'écroule dans la mer.
tous les lobbies de la viande, de la FNSEA, etc., ils ont martelé pendant la crise agriculture française. Les agriculteurs français vous nourrissent, on a l'agriculture la plus durable du monde. Et les Français se mettent en tête que manger français et local, c'est bien et c'est parfait. Et c'est pas vrai. Le problème, c'est que pour produire ces produits animaux, souvent, on importe du soja. Et c'est vrai particulièrement pour la volaille et pour le porc. La France importe autour de 4 millions de tonnes chaque année de soja qui provient majoritairement d'Amérique latine et qui a donc engendré de la déforestation. Si on veut relocaliser vraiment la production, on a besoin de manger plus de légumes secs comme les haricots, les pois chiches, etc. Et ça, c'est à la fois meilleur pour les sols et aussi bien meilleur pour la santé.
Elle s'appelle Clou, la jeune fille dont vous venez d'entendre la voix.
Ça s'écrit comme
un clou ? C-L-O-U, oui, exactement.
Pourquoi
voilà.
pas
Je la connaissais
pas. C'est un pseudo qui aurait pu figurer dans notre quiz de tout à l'heure.
Ah oui, c'est vrai.
Donc 5 ans, on le disait tout à l'heure, vous avez fêté votre anniversaire l'autre jour, 51 ans. Alors,
je ne vois pas de quoi vous parlez.
Ah, bah, voilà.
D'où vient cette information?
Alors, très franchement, vous pouvez être à l'aise là-dessus.
Ah, oui,
on
bah dirait
qu'on avait 38, très... donc c'est assez agaçant. Très, c'est très agaçant pour ceux qui ont 38 ans, justement. Comme le veut la tradition, Jean-Paul Belmondo vous a souhaité votre anniversaire ou pas?
Oui.
Alors, on raconte pour les gens qui ne savent pas d'où vient votre pseudo, Bob Sinclair.
Le pseudo vient du film Le Magnifique. Un film de Philippe de Broca, 1973. Et je ne l'ai pas écrit pareil, puisque lui, c'est Saint, et plus loin, Clar, C-L-A-R. Et voilà, je suis un grand fan de Jean-Paul et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 6 ans maintenant. Il avait vu dans le ciel de Cannes, il va toujours à Cannes l'été, il avait vu dans le ciel un avion qui disait Bob Sinclair ce soir au Baoli, le club,
c'est
etc.
Génial.
Donc il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Appelez-moi ce Bob Sinclair au téléphone. Et il m'a invité à déjeuner,
ah,
voilà, à la plage. Et j'étais, son assistant m'a appelé, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette farce? J'ai cru à une farce au départ. Et c'est un homme voilà, d'une humilité et d'un charme extraordinaire. Et j'ai la chance de manger tous les ans, 2-3 fois avec lui. Et il m'a envoyé une petite vidéo pour mon anniversaire. C'est, voilà, c'est un homme extraordinaire.
C'est assez classe d'avoir une petite vidéo d'anniversaire
de
Jean-Paul Belmondo. C'est une certitude. Son métier consistant aussi à repérer les jeunes talents, Bob Sinclair n'aura pas fait le voyage pour rien cet après-midi à Europe 1. Puisque toute sa vie, il se souviendra que c'est ici qu'il a rencontré Olivier Pouls, le petit prince du rap belge. Auteur il y a quelques mois d'un featuring très remarqué sur notre chanson d'anniversaire pour Eva Rock, alors une chanson un peu molle, comme vous allez l'entendre.
C'est hard, fini les arts.
Voilà, on avait repris une chanson de Clara Luciani, voilà, c'est un peu mou. Quand soudain, il intervient.
Eva, t'es mon confidoi. Quand je te vois, je te poufferais bien la soca. Tu me donnes des envies de pizza, arrosée de vodka, trempée de tequila. T'es une geisha au nougat, vanille et chocolat. Shakira de la bruquette, je te ferai des tonnes de carbonara. Eva, on t'aime comme je kiffe la chipolata.
Et je vais vous dire, Bob Sinclair à Ibiza, ça met feu directement. Vous lancez la soirée là-dessus, c'est parti. Olivier Pouls, bonjour.
Bonjour, mais Bob m'avait déjà repéré. Hein. Ça fait depuis le confinement, on est en contact. Mais on attend avec grande impatience la réouverture des clubs à Ibiza.
Ah ben,
on le confirme.
Hein. Oui, ils vous attendent de pied ferme, Olivier. En attendant, vous avez quand même une autre casquette qui est chroniqueur gastronomique. Pour l'instant,
Accessoirement, comme
dans le rap, ça ne marche pas encore très fort. Vous continuez de nous donner chaque soir une petite recette facile et goûteuse.
Ben, on a parlé d'apéro toute la semaine, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il nous manque quand même un truc. Dans l'apéro, on a donné des idées de tapas,
Moi, j'ai bien une idée, mais si c'est moi qui le dis encore, ça va...
Ben, qu'est-ce qu'on boit ?
Bah oui, évidemment.
Et oui, et donc je me suis posé la question, quel allait être le cocktail tendance de l'été 2020 ?
Oui, c'est vrai que ça fait quelques années que c'est le Spritz, il serait temps d'inventer autre chose.
Alors le Spritz a toujours la cote, on en boit toujours volontiers. Alors j'ai vu deux trucs, un truc qui ne m'a pas tellement inspiré, une sangria à la bière.
Bon, oh okay.
Non,
c'est
rien que...
Le cocktail tendance en ce moment, c'est le grand retour du gin tonic. Le gin tonic.
Le retour, vous êtes sûr?
Oui, chez vous,
il
n'était pas vraiment
parti.
Mais j'imagine que ça vous rappelle vos soirées en discothèque.
Alors,
dans les années 80.
Le Malibu, Anana, mais moi je...
Et quand vous ne buvez pas du tout.
On parlait tout à l'heure, parce qu'Olivier, évidemment, n'est pas au courant. La spécificité de Bob Sinclair, c'est qu'il
n'est pas ma spécificité. Il n'est connu que pour ça, d'ailleurs.
Une des choses étonnantes quand même, quand on est dans le milieu de la nuit, c'est que vous ne buvez pas du tout d'alcool. C'est pas que vous y allez mollo, c'est que vous ne buvez pas d'alcool. Vous buvez quoi d'ailleurs quand vous êtes quand vous faites un mix toute la nuit, vous faites quoi?
De l'eau.
Uniquement.
Et je demande des fruits aussi, parce que le sucre, c'est important pour garder le... l'énergie, la pêche, etc.
Donc voilà, alors, en ce qui me concerne, non, hein, moi je vous avoue que j'étais pas dans la cabine de DJ, j'étais plutôt accoudé au bar à commander des gin tonic.
Exactement. Alors c'est quoi le secret du nouveau gin tonic?
C'est que le gin est devenu une boisson qui est montée en gamme de manière assez conséquente ces dernières années, avec notamment beaucoup de producteurs français. Le gin, c'est une très vieille boisson d'origine hollandaise, hein, c'est simplement un malt distillé et aromatisé aux baies de Genièvre. Mais aujourd'hui, on travaille cette boisson avec énormément d'autres adjuvants. Alors ça peut être des plantes, ça peut même être du caviar, figurez-vous, infusé dans le gin pour donner des goûts, pour donner des saveurs.
C'est un peu du gâchis, hein, du caviar dans le gin, excusez-moi.
Je ne vous cache pas que, effectivement. Et puis, même le tonic, hein, qui est de l'eau gazeuse avec de la quinine, c'est chiquisé, si on peut utiliser ce mot un petit peu barbare. Et il y a aujourd'hui des toniques qui ont vraiment du goût, de la saveur. Alors, la recette classique pour réussir un gin tonic, c'est 2/3 de tonic quand même et 1/3 de gin, hein, pas comme Eva.
Vous me le dites, l'inverse, avec un clin d'œil, j'ai l'impression que c'est pas vraiment votre dosage. Alors,
Eva, le dosage inverse, mais le vrai, c'est arrêtez. 2/3 de tonic et 1/3 de gin.
Avec modération.
Des glaçons et un tout petit zeste de citron pour amener la petite touche d'acidité, mais vous pouvez vous amuser à les twister, comme on dit, et donc rajouter, pourquoi pas, une petite feuille de menthe ou de basilic. On peut changer le citron jaune par du citron vert, c'est pas mal. Un petit morceau de pomme aussi, ou un petit zeste de pamplemousse. Ça donne du peps à votre gin tonic, mais surtout, amusez-vous à découvrir des gins avec modération, bien évidemment.
Vous picolez, vous êtes vraiment dans l'air du temps, Olivier Pouls.
Mais qui sont très savoureux, très intéressants. Et ce sera tendance, mon cher Mathieu, cet été, on va demander des gin tonic.
C'est ce que vous me demanderez si vous venez chez moi, il faut que je me prépare à ça.
Ah oui.
Bah oui.
Bon, alors je réécouterai en podcast pour bien noter les dosages.
Non, mais je
pas
vous
le
rappellerai, vous inquiétez
oui,
pas.
Oui, heureusement, Eva est toujours là pour m'assister. Merci Olivier Pouls, votre recette disponible en podcast sur le site d'Europe 1. Et on vous retrouve demain dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h. Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour soigner vos zygomatiques sans pour autant mettre vos neurones en jachère, en compagnie d'un invité qu'avec Eva, on tente d'apprendre à mieux connaître. Même si, hélas, au détour de ce qui n'était souvent qu'une boutade, on apprend parfois plus dans cette émission sur les chroniqueurs que sur l'invité, comme vendredi quand, commentant un son sorti de son contexte comme d'habitude, Farah Kessri, notre vétérinaire érotomane, s'est trahi devant Bob Sinclair. Les chroniques animalières regorgent de formulations sorties de leur contexte, peuvent déstabiliser, comme par exemple si je demande à Farah si elle aime Bob Sinclair.
De la tête aux pieds jusqu'à l'extrémité de la queue.
C'est clair. Bonjour Farah Kessri.
En plus là, ça tombe bien parce que c'est vrai.
Avis aux journalistes, n'essayez pas de rebondir derrière un son, parfois c'est pire. Aujourd'hui, c'est l'auteur des célèbres Cahiers d'Esther qui nous accompagne, Riyad Satouf. Je crois qu'Evaroc a quelques questions pour vous.
Oui, vous dites souvent que les dessins et la couleur sont une grammaire, en parlant de vos albums. Est-ce qu'il y a un code couleur? Il y a un code couleur dans les Cahiers d'Esther. Est-ce que vous pourriez nous le décrypter? Pourquoi vous mettez parfois du rouge, parfois du bleu, qui est assez dominant d'ailleurs, souvent?
C'est vrai que pour moi, la bande dessinée, c'est une langue. Et il y a des mots, des façons de dire les choses. Chaque case est comme une lettre, comme un mot, etc. Et donc, j'essaie de réduire au maximum les informations graphiques pour que ce soit le plus clair et le plus facile à lire. Et je sais que dans les Cahiers d'Esther, je me suis imposé en fait des sortes de chartes graphiques où je m'autorise 2 couleurs par page. Dans l'Arabe du futur, c'est un petit peu pareil, je m'autorise des couleurs par pays. Mmh. Et dans Esther, c'est donc 2 par page. Des couleurs qui sont en résonance avec l'histoire et sa tonalité. Il faut savoir que les couleurs ont un effet biologique sur l'être humain. Mm-hmm. Anissé pourra en faire une chronique. Mais par exemple, si vous regardez du rouge, votre rythme cardiaque augmente. Ouais. Si vous regardez du vert, c'est l'inverse. Le rouge est la première couleur qu'on voit parce qu'en fait, biologiquement, parce qu'en fait, les bâtonnets à la surface de l'œil, il a besoin de voir quand on est blessé qu'il y a du sang par terre. Donc il y a le bleu génère d'autres choses. Et donc, les couleurs ont un vrai effet. Et donc, c'est pour ça que je les ai limitées pour les exploiter au maximum dans leur pureté, je dirais.
Mais ça marche vachement bien, d'ailleurs.
Mais ça pour marcher, oui, ça marche, oui. Effectivement. Et ben, je vous confirme, je vous rappelle le nombre de ventes, 650 000 ventes. Oui.
Si vous restez dans une pièce éclairée en vert, par exemple,
qu'est-ce
pendant une heure,
vous
faites
sentez
l'essai.
Mieux ouais.
Non, parce que quand vous sortez, le monde extérieur vous semblera rouge. Parce qu'en fait, faites l'essai.
Attendez, j'ai une pièce verte chez moi.
Ou l'inverse, rouge. Si vous sortez, le monde vous semblera vert.
Riyad Satouf est avec nous cet après-midi. Ensemble, on feuillette le tome 5 des Cahiers d'Esther. Esther a maintenant 14 ans. C'est publié chez Alary Éditions. C'est toujours aussi bon comme à chaque volume. Mais à chaque fois, évidemment, elle évolue, Esther, puisque là, elle a 14 ans. Vous dites, les Cahiers d'Esther me permettent d'avoir un autre point de vue que le mien sur la jeunesse, qui est un de mes thèmes favoris. C'est vrai que c'est votre thème de prédilection, la jeunesse.
Oui, ça m'intéresse beaucoup, oui.
Qu'est-ce qui vous fascine tant ?
Disons que c'est vrai que plus on prend de l'âge, vous avez certainement vu... à la télé, les spécialistes, les intellectuels, souvent, il y a toujours un moment où ils disent « le monde, ça s'effondre ». Nous faisons face à une extinction majeure. Et en fait, je pense qu'ils parlent de leur propre sexualité. On écoute des mecs qui sont en train de nous dire que tout. Et finalement, quand on écoute les jeunes, ils se disent moi, je commence ma vie, j'ai envie de prendre les choses à bras le corps. Et c'est justement Greta Thunberg, c'est un petit peu ça aussi. Elle dit il faut faire les choses, si on ne les fait pas. Et donc, en fait, de changer sa façon de penser, c'est aussi intéressant pour moi en tant qu'être humain, parce que comme tout le monde, je me dis c'est fini. Et de m'intéresser au monde des jeunes.
Ça vous ressource.
C'est vrai que ça me fait changer les idées. Je me dis, c'est marrant, quelqu'un qui rêve du métier qu'elle va faire plus tard, comment elle voit le futur, etc. C'est rafraîchissant.
Voilà, peut-être rappeler aux auditeurs aussi qu'on vous doit le film Les Beaux Gosses, qui était déjà aussi sur l'adolescence. Est-ce que vous pourriez refaire un film sur l'adolescence aujourd'hui? Quelques années plus tard.
Oui, j'aimerais beaucoup. Mais alors, c'est vrai que comme les bandes dessinées, les livres, c'est vraiment ma grande. C'est ce que je rêvais de faire quand j'étais enfant, etc. J'ai fait des films grâce à la bande dessinée, parce que ça m'a permis d'intéresser des producteurs, etc. Mais je me battrais à mort pour continuer à faire des livres. Pour faire des films, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est un univers un peu plus.
On va en parler tout à l'heure parce qu'avec Eva, on veut que vous fassiez un autre film, donc on va vous motiver parce qu'on vous sent un peu comme vous êtes au top dans la BD, vous dites ouais, tranquillou, on va pas se faire chier avec des films, mais nous on veut voir d'autres films, donc on va vous motiver tout à l'heure. Alors, votre autre BD vedette, c'est évidemment L'Arabe du futur.
Extraordinaire aussi.
Mais après L'Arabe du futur, je vous présente La Niçoise du passé.
Oh non !
Une série qui pour l'instant a eu un peu moins de succès, mais on veut y croire, c'est l'heure du quiz.
Alors,
avec vos BD comme Esther, Pascal Brutal, mais aussi La vie secrète des jeunes, vous êtes devenu une référence littéraire dans la culture jeune. C'est pourquoi nous allons faire un quiz du parler ado.
Oh,
c'est une de vos grandes forces, c'est ce qui rend les cahiers d'Esther si savoureux. Une expression, trois propositions, c'est parti. Eva Rock, si je vous dis YOLO, ça veut dire carpe diem, franchement rien à battre de ce que tu me dis, ou Matt la meuf qui arrive, c'est un avion de chasse. YOLO.
C'est carpe diem, non ?
Que veut dire carpe diem, Eva ?
Eh ben, profite de l'instant présent, quoi.
Oui, bon, c'est bon, j'essaie de vous piéger, c'est bon, c'est ça. YOLO. Mais que veut dire YOLO ? C'est l'acronyme de quelque chose.
You only live once.
Oh, deux points pour Ariane en plus. Vous marquez un point, mais Ariane en marque deux. Et oui, ce sont les règles du jeu que j'invente au fur et à mesure. Effectivement, ça veut bien dire carpe diem. Riyad Satouf, si je vous demande si vous avez beaucoup de moula, ça veut dire que vous avez beaucoup de chance, que vous avez beaucoup d'argent, ou que vous aimez tout simplement les moules marinières.
Alors, moula est un terme qui veut dire plusieurs choses et qui a été évidemment popularisé.
Là,
par
vous
la...
faites le vieux
service. Je vais vous expliquer l'origine de moula. Moula a été employé par Eus l'Enfoiré, son célèbre titre. Moula veut à la fois dire avoir de l'argent, du succès. Et alors, on pense que ça vient aussi quand tu dis moula. Ce serait un rapport au trafiquant de drogue qui dit être une mule. La moula, c'est la personne qui gagne de l'argent en... Ouais. Alors voilà, moi c'est ça que je sais sur moula.
Oui,
mais on ne sait pas trop ce que
c'est. C'est ça que vous savez, c'est exactement la réponse que j'ai. Vous gagnez donc 17 points.
Oh là là.
Nous sommes à 19 points. Mais ça ne s'est dû jamais vu dans le quiz.
Mais si
je vous dis que vous et moi, on est QLF, ça veut dire...
Oh là là.
Ah, attention, calmez. Ça veut dire qu'on est très proches. Ça veut dire qu'on est sex friends. Ou ça veut dire que vous donnez de très bons conseils télé.
Non, QLF, ça doit être comme Q et chemise, donc très proche, non ? Je vois.
Ça serait le Q et chemise du troisième millénaire.
C'est ça.
QLF, vous faites partie de ma bande, vous êtes que la famille. C'est bon, c'est une bonne réponse.
Bah oui.
Mais vous donnez des bonnes réponses
mais
à gogo, comme disent les jeunes. Riyad Satouf.
Les jeunes de 1830.
Si en lisant votre dernière BD, je vous dis Riyad, ta dead sa chacal. Ça veut dire que vous avez copié sur une autre BD, que vous avez grave assuré ou que vous devez être un obsédé sexuel.
T'as quoi ? J'ai pas compris.
T'as dead ça, chacal.
Ah bah t'as tué le game quoi, c'est ça non ?
Eh ! Donc ça veut dire quoi ?
T'as répété les propositions parce qu'on s'en sort
pas. Ça veut dire
pas.
Que vous avez copié sur une autre BD, genre c'est pas bien quoi. Hein. Ça veut dire que vous avez grave assuré ou ça veut dire que vous êtes un peu obsédé sexuel.
Je suis profondément opposé à ce langage de jeunes qui me semble dénaturer la langue française. Je ne comprends rien de ça, pas. J'ai jamais entendu ça.
T'as belle ça, chacal. Eva.
T'as grave assuré.
T'as grave assuré, bonne réponse, Eva. Okay, effectivement, je ne sais plus si la citation est de Raymond Aron ou Aya Nakamura. Mais ne dit-on pas, je suis pas ta catin, Jaja, genre en Katchana, baby, tu dead ça.
Voilà, donc et ça ne comprend rien à
cette parole.
Et ben, parole à chanson.
Si je vous dis qu'on se voit en soum soum, ça veut dire qu'on se voit très rapidement, en toute discrétion, ou très rapidement en toute discrétion.
Ah ben oui. Très rapidement et en toute discrétion.
Très rapidement et en toute discrétion.
Ouais.
Je sais pas si la... je comprends pas la réponse. La réponse, c'est l'air de rien en toute discrétion.
Mais
alors,
sous-marin.
C'est pas très rapidement, alors. C'est une mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Oh, il va rater. Quel dommage.
Oh, quel dommage.
Rien de cette ouf, si aujourd'hui vous vous êtes fait rotsa. Ça veut dire que vous êtes fait avoir, que vous êtes battu avec un margoulin ou que vous avez un souci gastrique.
Alors, permettez-moi, Mathieu, je pense que vous avez mal prononcé. On ne dit pas rotsa, moi je dirais rotka. Et c'est se faire carotte, c'est se faire piquer, se faire arnaquer.
Alors là, rotsa. Effectivement, 3 points pour Yann Satou et 17 points en moins pour moi, qui ne participe pas au jeu, mais néanmoins, là effectivement.
Vous avez 170 ans, Mathieu.
Et en plus, je suis suisse, donc j'ai au moins 200 ans, à mon avis. Bon, eh bien, c'est Yann Satou qui l'emporte, qui triomphe. 22-3, c'est le record de toute l'histoire du quiz. Vous écoutez l'équipée sauvage la plus funky de l'année. I wanna be the best for you, my life. Je crois vraiment, grâce à Ben, notre invité, je crois qu'on n'a jamais été aussi haut sur l'échelle de la branchitude.
C'est vrai.
Ah, je me sens, mais ouais. Je me sens, j'ai l'impression d'être sur Radio Nova.
C'est
vraiment, vraiment, je kiffe grave cet après-midi. Je me sens presque jeune, Eva.
C'est vrai ?
Presque jeune.
Mais
ouais.
Vous êtes jeune.
Je me sens âgé. Mais l'autre jour, Bob Sinclair a quand même cru que j'étais plus vieux que lui, quand même.
Oui.
Sachant que Bob Sinclair a 51 ans. Et moi, 37. Merci, Bob. On t'embrasse, plein de bisous. Quatrième album de Ben, jadis l'oncle Soul. Quatrième album Addicted to You, disponible le 19 juin prochain. Est-ce que vous faites partie, Ben, de ceux qui s'inquiètent pour notre planète ? Ou bien là, à court terme, vous êtes juste inquiet pour les dates de concert et pour tous les intermittents du spectacle qui sont sur le carreau.
Ouais, non, franchement, j'aime trop notre dame nature pour ne pas être concerné. Ouais,
vous sentez concerné un petit peu?
Oui, on est tous cons. On est tous.
Vous avez dit on est tous cons. Vous avez dit on est tous cons. Et ça pourrait être repris. Hein.
Et ça, c'est un peu vrai. Hein.
Notre deuxième prétendant au titre de chroniqueur du jour n'est pas n'importe qui, les amis. Occupant actuellement la première place du championnat européen des journalistes, elle a le privilège de pouvoir choisir sa musique d'entrée. Et elle a du goût, puisqu'elle a opté pour The Boss de Diana Ross. Histoire de rappeler à ses rivaux son statut de leader du classement général.
J'adore ce morceau.
Ah, j'adore aussi. Journaliste talentueuse, elle ne risque pas en revanche de vous faire de l'ombre dans le domaine musical, Ben, comme l'enregistrement de la chanson anniversaire surprise d'Eva Rock l'avait démontré.
Eva, je kiffe l'humour comme toi, pas toujours cérébral.
L'émotion est là.
Nous sommes de Galuron.
Cadeau pour Oldelaf, un nouveau couplet pour la tristitude.
Je pousse un peu les graves.
Ah oui, à mon avis, il y a 2-3 autres trucs à régler. Anne Le Gall, aujourd'hui, vous êtes porteuse d'une relative bonne nouvelle. Le jour du dépassement est décalé. Non pas de 3 mois, comme je l'ai dit, mais de 3 semaines, et c'est déjà pas mal.
Oui, 3 mois, c'était la durée du confinement. On sent que ça vous a marqué.
Oui, ça m'a marqué à vie, oui.
Donc là, oui, c'est retardé de 3 semaines et c'est une bonne nouvelle parce qu'avoir un compte en banque dans le rouge, c'est jamais bon signe, surtout quand ça arrive au mois d'août. Mais là, aujourd'hui, on va se réjouir de cette situation parce qu'être à découvert le 22 août, c'est quand même mieux que de l'être le 29 juillet.
Alors, ça fait 24 jours de moins dans le rouge, parce que vous avez vu, je calcule vite, ouais. À moins que vous m'ayez préparé à relance.
Voilà, c'est votre précision suisse, Mathieu. Et c'est ce qui arrive à la population mondiale, 24 jours de gagné. Ce jour du dépassement de la Terre, c'est-à-dire le jour à partir duquel l'humanité a utilisé toutes les ressources naturelles normalement disponibles pour un an, donc il n'aura lieu que le 22 août. Et ça faisait 15 ans qu'en fait, ce jour reculait d'année en année. Là, on est revenu à la situation de 2005, et ça s'explique grâce au confinement lié au Covid. Les usines au ralenti, les avions au sol, les frontières fermées, les habitants cloîtrés chez eux. Tout ça a permis de limiter l'activité économique et a permis de limiter les déforestations, moins 8% par rapport à l'année dernière. Et pour les émissions de CO2, c'était moins 14% par rapport à l'année dernière. Et ce sont ces deux facteurs qui ont fait reculer donc le jour du dépassement.
Excusez mon scepticisme, mais comment il est calculé ce jour du dépassement ? Est-ce que c'est vraiment fiable ?
Alors, c'est simple. Racine carrée en fait, de 38.
C'est presque ça, Ben. C'est une ONG américaine qui s'appelle Global Footprint Network qui calcule ce chiffre sur la base de données officielles publiques, donc des données comme celles de l'ONU, de l'Agence internationale de l'énergie. Il y a des chiffres issus du commerce mondial, de l'industrie minière, forestière, de l'agriculture, de la pêche. Pour chaque pays, il y a 15 000 points de données qui sont agrégés pour avoir une idée des ressources utilisées et de la pollution créée. Donc tout ça, c'est fait pour 200 pays dans le monde et sur un recul qui remonte aux années 60. Alors évidemment, ce système a aussi ses détracteurs parce que certains lui reprochent justement de mélanger trop d'indicateurs différents. On mélange des poires, des pommes et des bananes. Certains trouvent que c'est un petit peu trop global pour en tirer une conclusion. Mais il faut reconnaître que ce calcul a quand même le mérite de donner des repères forts au grand public et ça aide à la prise de conscience. Parce que quand on dit que l'humanité consomme plus d'une planète et demie par an, et ben voilà, on comprend que si on ne fait rien, ça va poser des problèmes aux générations suivantes. Alors maintenant, évidemment, le fait que ça arrive le 22 août, ça reste une mauvaise nouvelle. Parce que, en plus, en France, avec notre mode de vie, nous, les Français, on arrive même au jour du dépassement de la France à partir du mois de mai. Mais bon, quand même, cet indicateur a l'intérêt de montrer, particulièrement cette année, qu'un changement de comportement à l'échelle mondiale, ben, c'est possible et ça peut porter des fruits très rapidement. En fait, l'homme garde une capacité à agir très très vite sur son environnement.
Oui, enfin, en cas de Covid, cas de pandémie mondiale, on est bon. Mais hors pandémie mondiale, on est moins bon. Merci Anne Le Gall. Et pardon, j'ai oublié de vous prévenir, Anne, suite à un petit pépin à la compta, un problème de logiciel, vous ne serez pas payée ce mois-ci.
C'est pas grave.
Ouais, elle est vraiment super cool, elle est cool, je vous le dis.
Ah non, mais là, non, quand même.
Comme ça, Alice, vous voulez rivaliser avec le guide du routard ?
Oui, bah, je vais profiter qu'il soit là, hein, parce que c'est un jeu vraiment formidable qui utilise les photos de Google Street View. Hein, et le principe est vraiment tout bête. Vous êtes parachuté à un endroit complètement au hasard sur la planète et vous devez deviner où vous êtes.
Par les pancartes, les...
Exactement. Donc on n'a que son sens d'observation. Donc on zoome. Alors je vous en ai emmené un pour que vous puissiez regarder. Là on est projeté à un endroit complètement au hasard. Et vous pouvez tourner autour de vous-même. Vous pouvez avancer. Vous pouvez zoomer sur les cartes. Alors on repère les marques des voitures. On repère les signes sur la chaussée. On cherche les plans. On cherche les pancartes, etc. Et on se déplace. Vous savez, dans Google Street View, on peut avancer dans la rue. Ouais. On peut prendre des virages, etc. Et là on se déplace. Et on cherche comme ça des indices. Alors c'est encore mieux quand le temps est limité, parce qu'on peut se donner 5 minutes pour essayer de trouver l'endroit, et on peut jouer à deux, chacun son tour, pour savoir qui est le premier à se rapprocher. Et une fois qu'on a trouvé, qu'on a un indice, on positionne une punaise sur la carte, et plus on est près de l'endroit où on a été parachuté, plus on gagne des points. Il faut être précis au mètre près. Ah. Et on va écouter ce que ça donne quand on joue à deux.
Ça se trouve, il a déjà vu un panneau dans l'autre sens. Ça se trouve, il est parti dans l'autre sens, il a trouvé un panneau avec écrit... Lima à 12 km, quoi, avec le numéro de la route. Et du coup, il sait exactement où on est. C'est peut-être la Turquie. J'ai des doutes turcs. Parce au début, je pensais qu'on serait en Amérique du Sud.
Oula. J'ai fait 27 km.
Putain, 232 km.
Ah là là.
Mais je me fais défoncer. Ah putain, Ulangat juste là. Mais comment t'as pu te dire que c'était à côté de Kuala Lumpur? On était en pleine campagne, quoi.
C'est gratuit, Anissé, le jeu?
Alors, c'est totalement gratuit. Sauf que ça repose sur Google Street View. Google Street View est payant. Et donc, ils ont été obligés de rajouter une fonction un petit peu à ce qu'on appelle le freemium. Donc, il y a une version gratuite. Et si on veut des cartes un peu spécifiques, un peu spéciales, par exemple, on peut avoir des cartes que des capitales, que des aéroports, par exemple, que des circuits de Formule 1. On vous projette dans un circuit de Formule 1, il faut deviner lequel. Dans des villes françaises, il faut deviner quelle est la ville française. Et pour ces cartes un petit peu spéciales-là, il faut payer, c'est 1 euro en général. Et c'est sinon, le jeu en lui-même est complètement gratuit.
Et quand on est nul, comme moi, pardon, allez-y, Philippe.
Là, c'est sur l'image de notre ami Anissé, c'est un peu... c'est pas terrible, c'est la maison de campagne de Mathieu Noël.
Entre moi, Anissé,
Moi, j'ai l'impression que c'est en Thaïlande. Hein.
Il est temps que vous veniez à la maison. Parce que...
Et si on vous balance en plein milieu d'un...
Ça, ma maison de campagne.
Si on vous balance en plein milieu d'un désert ou d'une forêt, mais
justement,
comment vous
c'est ça l'intérêt, c'est ça le challenge. Il y a même des gens qui s'amusent, qui sont devenus tellement experts et tellement bons en géographie que le but du jeu, c'est de savoir où on est sans même se déplacer. C'est-à-dire qu'on vous projette au milieu d'une forêt et rien qu'en détectant les types d'arbres, la position du soleil, le type de bitume qui est utilisé, les gens sont capables de dire dans quel pays à peu près on est quand on est un véritable expert.
C'est passionnant, mais comme vous recevez des sextos en même temps, je vais vous rendre la tablette. C'est un petit peu gênant.
Il y a des communautés qui se sont installées sur ce jeu. Et franchement, je vous le recommande. Allez-y. Il y a même un challenge qui est très intéressant. C'est quand on prend des monuments célèbres, des endroits célèbres de la planète. Tiens, tenez, je vous ai amené un.
Ah non, ça, c'est la fontaine de Trévis.
Alors, est-ce que vous serez capable de la placer précisément sur une carte? C'est ça le
problème?
Oui, c'est Rome, mais à quel endroit?
Précisément sur une carte, tu mets Rome.
Bah justement, j'aurai plus de points si je suis à 500 mètres ou si je suis à 1 km.
Oui, Philippe, d'accord. À l'est de la Piazza Navona.
Eh bien, allez-y, je vous invite à jouer. Et Philippe est à 350 mètres.
Oh là là.
350 mètres.
Ça, bon. c'est
Mathieu même... Noël, mauvaise nouvelle, je prends votre place.
Oui, moi j'étais à 350 km, c'était pas loin, c'était juste l'unité qui était différente. Merci beaucoup Anissé Mbidaï, bravo également à Axel de Tarlé qui n'a pas interrompu Anissé pour se foutre de sa gueule.
J'avais jamais vu ça de ma vie.
Oui, ça lui a fait épuisant, bravo mon grand. Vous écoutez L'Équipée Sauvage et c'est un moment très attendu des puristes, l'interview de notre invité par Eva Rock. Un moment toujours passionnant, souvent assez cérébral, comme hier face à Riyad Satouf, Eva a eu beau convoquer tous ses neurones mis bout à bout n'ont pas suffi pour comprendre ce que racontait Riyad sur le rôle des couleurs dans la BD.
Je sais que dans les cahiers d'Esther, je me suis imposé en fait des sortes de chartes graphiques où je m'autorise deux couleurs.
Ah bon ?
C'est-à-dire que les couleurs ont un effet biologique sur l'être humain.
Oui.
Le rouge est la première couleur qu'on voit. Il a besoin de voir quand on est blessé qu'il y a du sang par terre. Donc il y a et le bleu génère d'autres choses. Et donc,
sauf pour les daltoniens.
Bon, alors aujourd'hui,
ma remarque était juste pas grande.
Mais... essayez de ne pas aller trop loin. Ben nous écoute un peu inquiet. Va.
Non, il n'est pas inquiet du tout. Le disque sort quand même sous le prestigieux label Blue Note. On l'a pas encore
ça,
dit.
Ça, c'est classe.
Voilà, label
sauf
de jazz.
Pour les
oui, sauf pour les sourds. Bon. Voilà, on sera un peu embêtés.
Autre chose.
Mais ils ne sont pas aveugles, donc en même temps, ils peuvent le voir sur la pochette. Un label de jazz qui a été fondé en 1939. Est-ce que vous vous souvenez le premier Français qui a signé à ce label?
Pas du tout.
Jazz. Je vous en parle parce que c'était Claude Nougaro, c'était en 2004, ah ouais. C'était le premier Français à signer sous Blue Note. Est-ce que c'est un artiste important dans votre culture musicale, Claude Nougaro?
Ouais, bien sûr. Ah ouais, il fait carrément partie de mon imaginaire aussi dans la musique française en tout cas.
Vous avez une culture musicale très éclectique, hein, on le dit depuis le début de cette émission, mais si on reste sur le jazz, est-ce qu'il y a des jeunes artistes que vous écoutez et que vous pourriez nous conseiller par exemple?
Ouais, il y a un album que j'adore qui vient de sortir chez Blue Note justement. C'est un album qui est le fruit d'une collaboration entre un batteur qui est exceptionnel, peut-être sans doute le meilleur batteur au monde en ce moment, qui s'appelle Youssef Dye, et Tom Misch, qui est un guitariste et chanteur qui a une sublime voix, très posée, un peu crooner, qui fait des chansons plutôt pop, plutôt cool. Et là, le mélange des deux, on ne sait plus trop si c'est l'album du batteur ou du chanteur, mais c'est terrible.
Vous avez déjà passé une journée sans musique dans votre vie?
Ça arrive à des gens très bien, rassurez-vous.
Je crois pas, non, ouais. Je crois pas.
Même quand vous étiez petit?
Peut-être, ouais, si... Non, mais je crois pas. Le matin, je mettais la radio, le soir, je mettais les écouteurs, je me relevais la nuit pour écouter les disques de ma mère, donc franchement, j'étais assez drogué.
Elle écoutait quoi, votre maman? C'était Otis Redding, ouais, et toute la soul, Sam Cooke?
Pas seulement, ouais. Justement, Claude Nougaro en faisait partie, il y avait du reggae, il y avait plein de choses.
Et Sinatra, parce qu'il y a eu cet album de reprise,
ouais,
ça vient d'où? C'était aussi des chansons de votre enfance ou pas du
non,
tout?
Non, pas du tout. En fait, j'ai passé un petit peu de temps sur la côte ouest, en décapotable. Et en fait, je passais au drive, je mangeais un burger en regardant le sunset. Et en fait, non, j'ai découvert avec la culture chocard, beaucoup de gens écoutent soit... Enfin, toute la musique lowrider, en fait, c'est souvent Sinatra, en fait. Et du coup, j'ai voulu faire ce petit hommage-là.
Et vous... Un petit hommage, on vous le recommande grandement,
aussi,
l'album.
Effectivement, ouais. Vous procurer cet album. Et le nouveau s'appelle Addicted to You, ça sort la semaine prochaine. Il est déjà disponible sur les plateformes. Ben, reste avec nous. Vous écoutez toujours L'Équipée Sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans oublier d'en rire et également pour découvrir un invité sous un angle différent grâce à des interviews au cordeau. Car l'art de l'interview exige, c'est en tout cas ma théorie, une précision millimétrique. Et tout l'intérêt d'interviewer un invité à deux, c'est que lorsque l'un des deux ne trouve pas ses mots, l'autre peut voler à son secours. Ou alors l'achever à terre en soulignant à quel point c'est un tocard. Entre ces deux options, hier, Eva a vite fait son choix. Pendant le confinement, vous avez participé à une opération pour qu'on colorie, on envoie nos propres... Non, j'arrive pas à dire cette phrase, c'est trop compliqué. Comment je pourrais dire ça?
Bah, c'est facile quand même.
Non, je trouve ça difficile à dire. Aujourd'hui, Dieu soit loué, Ben.
Vous ne mettez pas la suite?
Non, c'est trop humiliant pour moi. J'ai déjà mis ce morceau qui est déjà assez humiliant. Effectivement, j'ai eu du mal à composer cette phrase qui était d'une grande complexité. Ben.
Vous proposez des coloriages
non,
sur
justement,
Instagram.
Ben a eu l'intelligence de ne pas proposer de coloriage sur Instagram à Stéphane, mais un nouvel album, ce qui est quand même beaucoup plus simple à expliquer. Voilà, un album, c'est ça. Alors, on passe un beau moment avec vous cet après-midi. Il y a quand même une crise sanitaire qu'on est en train de vivre, des concerts qui sont annulés. Là, vous devriez être en tournée, par exemple.
Ouais, exactement.
Donc, comment vous vivez ça? Comment vous réfléchissez avec votre producteur, j'imagine, pour recaler des dates? On a parlé d'un concert qui aura lieu
au mois d'août,
à Agde au mois d'août, mais pour l'instant, on n'a que cette date-là.
Ça reprend au mois d'octobre pour nous.
Ah, et donc là, toute la tournée est prévue à ce moment-là?
A priori, ça reprend normalement octobre, novembre, décembre. Janvier, ainsi de suite.
On a vécu une période étrange avec ce Covid qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui. On vit une autre période étonnante, riche de sens aux États-Unis autour de George Floyd, tout ce qui se passe.
Exactement.
J'imagine que vous qui êtes très concerné par les États-Unis, vous regardez ça d'un œil attentif. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, par les États-Unis, par la négritude, par le métissage, tout ça, c'est des. Et puis par l'humanité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait 23 000 personnes, bon ça c'est le gouvernement qui l'annonce, donc ça devait être 40 000 j'imagine. Et je suis très, très touché.
Vous parlez de la manifestation qui a eu lieu à Paris la semaine dernière.
Absolument, ouais, ouais. Je suis très heureux en fait que ça arrive, que ça finisse par arriver. Et peut-être que finalement aussi, est-ce que le confinement n'a pas aidé aussi à sentir qu'on a tous besoin des uns et des autres qu'on a... Voilà, on peut pas.
Vous pensez que l'enchaînement peut être salvateur. Confinement, prise de conscience par rapport à George Floyd, ça peut être. Mais non, mais ça peut nous aider à vraiment
prendre conscience. Bien sûr. On s'est tous recentrés aussi sur nous-mêmes, sur notre vécu, sur nos passions, les choses qui sont importantes pour nous. Et en fait, le fait de ne pas sortir, tout le monde s'est peut-être aussi senti un petit peu différent par rapport à ça.
Est-ce que vous avez été victime d'actes racistes ?
Oui.
Ouais.
Ouais, mais c'est gentiment raciste.
Raciste, est-ce que ça existe hein
ouais, en France, ça existe bien.
Ouais. Parce qu'on s'habitue à ce racisme-là, vous voulez dire, un racisme ordinaire ?
Bien sûr, bien sûr.
Et est-ce que vous avez senti un changement ? C'est surtout ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que, je ne sais pas, depuis 10 ans, est-ce qu'on a senti un changement dans la société de ce côté-là, où il y a encore autant de travail ?
À échelle historique, on peut peut-être parler d'un changement, mais pas
en si peu de temps.
Pas de mon vécu, non.
Êtes-vous sensible ?
Mais le changement est peut-être en train d'arriver, en fait.
A change is gonna come. Comme disait un certain.
Vous faites bien de le dire, je vais la chanter là, samedi prochain.
Mais à quelle occasion ?
Parce que 60 ans plus tard, alors il y a une minute de silence qui est justement instaurée au départ de Patrick Mouratoglou, qui est entraîneur de tennis.
Tennis, ouais.
Il lance un événement sportif et il va faire un discours et il va faire une minute de silence, si ce n'est pas 8. Mais en tout cas, il va marquer le coup. Et donc du coup, il m'a invité à venir chanter a cappella quelque chose que je ressentais pour l'occasion et pour parler de ça. Et je vais venir avec Linda Lee Hopkins, qui est une chanteuse de gospel en fait, qui vit en France depuis des années, qui est plutôt de la génération de ma mère ou ma grand-mère. Donc elle a connu les années 60, elle a connu la sortie de ce morceau avec Sam Cooke. Et finalement, 60 ans plus tard, ça fait un écho de le chanter avec deux générations. Et de voir que cette chanson est tellement d'actualité.
Mmh. Ah ben ça va être beau. Tout ça parce que j'ai pensé à cette chanson, sinon on ne savait pas, donc on n'aurait pas eu cette information. Ouais. Vous écoutez l'équipée sauvage, Bob Sinclair est notre invité arbitre du jour. Vous votez via Twitter pour votre chronique préférée. Vous vous mettez d'accord avec Bob. Et à la fin de l'émission, un seul de nos journalistes repartira la tête haute avec un renouvellement de son contrat. Quant aux autres, ma foi Eva, ils finiront certainement...
Dans des chambres de bonne avec toilettes et point d'eau sur le palier.
Oui, mais c'est comme ça, la vie est une jungle. Le journalisme est à l'image de la vie. Notre deuxième concurrent du jour est un sacré zozo, comme disent les jeunes, voire un fiefé loustique, directeur de Jazz Magazine depuis... Oula, voilà, à peu près. Fred Doherty est un critique qui n'est jamais eu sa langue dans sa poche, dans aucun domaine, puisqu'il disait encore au professeur Raoult pas plus tard qu'hier...
Ben si c'est ça ta médecine de gauche, les communistes, ils n'ont pas intérêt à prendre froid.
Fred, cet après-midi, pour décrocher le vote de... Je sais pas. Pour décrocher le vote de Bob Sinclair, vous avez choisi de rester dans votre domaine de compétences, la musique, et plus précisément, le hip-hop.
Eh oui, au commencement étaient les ancêtres du rap. Très politisés d'ailleurs, et l'un d'entre eux s'appelait Gil Scott-Heron, un jeune poète en colère qui scandait en 1971 « The revolution will not be televised ». La révolution ne sera pas télévisée. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. Eh oui, pourtant, quelques années plus tard, les premiers groupes de rap nous invitaient plutôt à taper dans nos mains pour secouer nos augustes séances sur le dance floor sans aucun respect de la distanciation sociale. Ah, c'était le bon temps. Alors ces joyeux fêtards ont pour nom Grand Master Flash, le monsieur derrière les platines, comme notre invité Bob Sinclair, and The Furious Five, les 5 MC, micro en main, et l'un d'entre eux, Melmel, se piqua un beau jour de 1982 de convaincre ses camarades de rapper un texte décrivant la vie quotidienne dans les ghettos.
Et alors comment les autres rappeurs du groupe ont-ils réagi ?
Mal, très mal. Ils ont d'abord refusé, persuadés que leurs fans voulaient surtout se changer les idées, et qu'enregistrer un rap aux paroles déprimantes était une très très mauvaise idée. Et puis il trouvait que la musique n'était pas assez dansante, bref, que ce titre intitulé « The Message », le message, n'intéresserait personne. Eh bien vous savez quoi ? Ils avaient tout faux. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying
not to lose my head. Fred Doëty, il y a quelqu'un en studio qui est encore plus pointu que vous, c'est Bob Sinclair, et il n'est pas d'accord.
Bah, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il faut déjà parler du premier disque de rap qui est sorti dans le commerce.
C'est quoi le premier morceau de rap qui est sorti ?
Rapper's Delight.
Ah, Rapper's Delight, ça je connais.
Sugar Hill Gang.
Rapper's Delight,
c'est vrai, c'est vrai qu'en 79, au moment où Sylvia Robinson, patronne du label Sugar Hill, demande, voit l'engouement qu'il y a dans les discothèques, parce qu'au départ, le rap n'existe pas sur un disque, ça n'est que dans les discothèques, c'est du disco-rap, le MC, et à un moment, c'est vrai que les gens, les rappeurs ne comprennent pas comment ils vont pouvoir mettre une session de club qui dure 5-6 heures sur un disque de 3 ou 4 minutes.
Oui.
Donc personne ne veut prendre le risque. Et Grandmaster Flash, qui est un des premiers DJ depuis 1973, dit tout de suite non, il refuse de faire ce disque en 79. Et donc Sylvia Robinson prend un mec qui fait des pizzas, un mec qui fait je sais pas quoi. Non, mais elle trouve trois mecs, donc leur demande.
Ouais, c'est trois pizzas au lot là-bas.
Leur demande d'écrire des textes et elle prend l'instrumental de Chic Good Times, qu'elle fait rejouer par un groupe qui s'appelle Positive Force, qu'elle produit à l'époque en 79. Et donc Good Times de Chic sort en mars 79, gros carton à New York, mais en juin 79, Sylvia Robinson sort le disque Rapper's Delight avec l'instrumental de Chic et vend, je pense à l'époque, 70 000 vinyles par jour juste à New York. C'est un carton absolu. Et après, il a fallu quand même 2 ou 3 ans pour que Grandmaster Flash se décide à faire un disque avec Mel et Mel et faire son carton The Message. Mais ça a pris un petit peu de temps.
Et donc, Bob Sinclair remporte l'équipe et sauvage, lui donne mes points déjà.
Non, mais c'est génial. On a un bon combo avec
Fred. Exactement.
Alors, super assistant pour faire ma chronique. On va pas parler des avocats de Chic à l'époque qui s'étaient un petit peu fâchés avec Sugar Hill Gang, mais c'est une autre histoire.
Merci Fred Goetti en collaboration avec Bob Sinclair aujourd'hui pour cette histoire.
Je trouve ça génial que Fred, passionné de jazz, parle de rap et c'est extraordinaire parce que on a toujours les puristes dire oh, mais le rap, quelle musique, c'est des voleurs. Tous ceux qui ont samplé et qui samplent encore aujourd'hui, mais c'est des pilleurs ils respectent pas ça. Et voilà, bravo Fred, en tout cas pour ta culture.
Merci. Le hip-hop a fait découvrir le jazz à beaucoup de jeunes depuis une vingtaine d'années.
J'irai même plus loin, Fred. Tu me diras si tu es d'accord. Le rap est la musique qui a évolué le plus depuis 40 ans. C'est la musique la plus
Pour moi, c'est la musique la plus importante depuis 40 ans.
La musique la plus créative depuis 40 ans. Et voilà, c'est génial.
Jazz, soul, funk, hip-hop, tout ça, c'est la même musique en fait. Tout est lié.
Fred, quel dommage que vous ne soyez pas en studio avec nous, parce que sans Calon.
Et oui,
avec Bob,
vous auriez pu
sympathiser à l'issue de cette émission. Merci beaucoup.
On en fera une bientôt.
Ça marche. Vous écoutez l'équipe sauvage, l'émission où la bonne humeur n'empêche pas les réflexions métaphysiques, comme vendredi dernier avec Bob Sinclair.
J'ai jamais été aussi libre qu'enfermé.
C'est vraiment paradoxal. Aujourd'hui, c'est Riyad Satouf qui nous accompagne pour fêter la sortie jeudi aux éditions à la du tome 5 des Cahiers d'Esther. Vous êtes censé aller jusqu'à ses 18 ans. Est-ce que vous êtes sûr que vous réussirez à aller jusqu'à ses 18 ans ? Parce que l'adolescence, c'est quand même une période compliquée où parfois on se rebelle. On peut faire, si jamais elle faisait une crise d'adolescence contre vous et qu'elle disait non, je veux pas, ou je veux 50% des droits.
C'est trop tard pour les droits déjà.
Désolé,
c'est pas possible.
Vous avez
Ensuite,
tout ficelé.
Si jamais elle en a marre et qu'elle ne veut plus le faire, j'arrêterai, bien sûr. C'est pas où je changerai de jeune fille, si on le dirait à personne. On y verra que du feu. Non, je pense pas tellement à ça. Puis c'est vrai que c'est surtout, on le fait vraiment avec un bon esprit. Disons que même si jamais elle ne voulait plus le faire, je crois que j'essaierais de mettre en scène le fait qu'elle veut plus le faire, par exemple.
Ça ferait quand même un album.
Je tenterais de trouver un biais, peut-être.
Alors, Riyad Satouf, un jour prochain, Esther va devoir trouver un stage, puis plus tard un stage de fin d'études. Ça relève parfois du parcours du combattant. Il faut être malin, comme va nous l'expliquer notre correspondant à Toulouse, Benjamin Péter, qui s'est donc trahi la semaine dernière.
Vous avez des origines suisses, Benjamin ?
Oh, c'est sûr.
Quand il avait dit à l'entretien d'embauche qu'il connaissait bien le Sud-Ouest, il parlait du Sud-Ouest de la Suisse, Genève, quoi. Aujourd'hui, Benjamin, vous notez en tout cas que certains jeunes ont des idées parfois étonnantes pour décrocher un stage.
Et oui, tout à fait. Vous savez, je suis un produit de l'acculturation. Hein. C'est pas Riyad Satouf qui va me contredire, mais effectivement je voulais vous parler aujourd'hui de ce jeune qui veut retrouver un stage, enfin jeune, pas si jeune que ça, il a 37 ans, alors on pensait, vous savez, que le jogging c'était un prétexte pour sortir pendant le confinement, sachez qu'il y a des gens qui continuent de courir. Lui, alors, il est parti aux aurores à 3h30 du matin. C'est la France qui se lève tôt, parce que ce parcours, c'est un peu sa lettre de motivation Pour vous résumer, donc Jérôme Bréhan, il a travaillé 10 ans dans la grande distribution. Et l'été dernier, il a décidé de changer de voie. Il a repris ses études pour devenir gestionnaire de paye. Il suit donc une formation qui doit être validée par un stage de 4 mois, censé débuter le 15 juin. Un stage professionnalisant qui est généralement susceptible d'évoluer en CDD ou peut-être même en CDI. Sauf qu'avec le Covid, là aussi, tout est devenu plus compliqué. Il a cherché un stage, tenté de contacter des entreprises, envoyé des centaines de mails, des courriers, sans succès. Et sans stage, pas de diplôme.
Alors, les entreprises sont passées en télétravail ou elles fermaient, donc elles ne recrutaient pas. Alors on appelle, est-ce que vous avez besoin d'un gestionnaire de paye ? On a beaucoup, beaucoup de refus. Et là, j'ai toujours rien. Pourtant, j'ai envoyé beaucoup de candidatures, beaucoup de mails.
Voilà, alors du coup, c'est en s'entraînant qu'il a eu cette idée, relier Caser, où il habite, à Toulouse, en distribuant son CV. Il est parti avec une cinquantaine d'enveloppes dans son sac à dos, parce que courir à vide, c'était certainement un peu trop facile. Donc il s'est arrêté dans des entreprises pour déposer les enveloppes dans les boîtes aux lettres et peut-être même être reçu quelques minutes avant de repartir avec sa prochaine
étape. Est-ce qu'il continue de trottiner sur place quand il parle et qu'il fait l'entretien?
On espère, parce qu'il faut garder le rythme. Pour garder le cardio aussi. Hein. Et puis, dans chaque enveloppe, il y a son CV, un article qui explique sa démarche et qui annonce aussi le nombre de kilomètres qu'il a couru pour arriver jusqu'à cette entreprise. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment choisi la facilité. Il aurait pu aller tout droit, choisir les entreprises à droite, à gauche, sur le chemin. Sauf qu'il a décidé de cibler les entreprises qui l'intéressaient, quitte à faire parfois un gros détour.
Au plus court, en 53 km, je pouvais y être. Mon parcours avec les entreprises que je vais rencontrer, il fait 69,7 km. Je vais faire quelques petits détours pour certaines entreprises. Le dernier cabinet comptable me fait faire un détour d'une dizaine de kilomètres.
Mais là, attendez, Benjamin, parce que déjà, un marathon, c'est une épreuve qui n'est pas à la portée de tout le monde. Enfin, moi, par exemple, je me limite à des semi-marathons, pas plus
mais
de 6
pas.
Ou 7 par an.
Ouais.
Mais 70 km, c'est vraiment énorme. Comment s'il s'est préparé à ça ?
Eh bien, en courant, une heure, comme tout le monde, pendant le confinement. C'est à peu près tout, parce que cette distance, finalement, il ne l'a même jamais couru avant. Alors, soyons clairs, il est marathonien quand même. Son dernier marathon, c'était à Séville en février dernier. Il est préparé, mais 70 km, ça reste un défi inédit pour lui. Mais ce qu'il espère, c'est évidemment qu'on le remarque, peut-être par ce magasin de sport chez qui il a prévu de s'arrêter sur la route. Vous savez, cette enseigne qui porte le nom d'une épreuve d'athlétisme, hein, ça commence par des cas, ça finit par plomb.
Oui.
Vu qu'il est arrivé en portant leurs produits de haut en bas, on peut espérer qu'ils l'ont trouvé très corporate et ils pourront peut-être lui proposer quelque chose. Puis d'ailleurs, ça a déjà commencé à fonctionner, puisqu'avant même son départ, des entreprises qu'il avait pourtant contactées et qui lui avaient donné aucune réponse, l'ont rappelé en apprenant qu'il s'était lancé ce défi et lui ont même proposé un entretien. Donc, on peut espérer que les choses vont se débloquer pour lui et qu'il pourra commencer à travailler dès lundi prochain.
Eva, ça vous donne des idées ?
De courir ?
Oui.
Moi, je suis nulle hein, parce que je cours après rien, en fait,
mais
finalement.
Mais c'est complètement con, Eva. Il faut courir et vous distribuez votre CV en même temps.
Au parc Monceau, je vais distribuer mon CV.
Au parc Monceau, vous avez certainement du succès. Merci beaucoup. Benjamin, vous êtes d'où en Suisse ?
Je suis entre le canton de Berne et le canton de Lucerne.
Ah oui, vous êtes bien suisse, quoi. Vous n'êtes même pas comme moi de Genève à la frontière. Vous êtes bien suisse.
C'est ça, c'est mes origines. Mais je suis alsacien, je suis aussi un peu italien, je suis un peu maltais.
Bref, vous êtes
bordel,
une
quoi.
Belle argile. Voilà. Merci, Benjamin Peter. C'est l'heure du mix, c'est là.
Oui, Riyad Satouf, c'était la fête des mères hier. Alors, sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on s'en est donné à cœur joie. Il y a eu beaucoup de séquences. Et avec Sébastien Bordonave, on a concocté quelques petits trucs qu'on a entendus, notamment une pastille de Catherine et Liliane. Et puis, Romain Dauduit, qu'on avait déjà diffusé sa parodie de Balance ton chat pendant le confinement. Hier, il proposait un duo avec sa maman qui l'accompagnait au ukulélé. Écoutez.
T'es la meilleure des mamans, sur toi je peux toujours compter.
T'es le pire des gamins, je vais te déshériter.
On se ressent tellement, c'est sûr que je suis pas adopté.
En tout cas pas encore, je viens de poster l'annonce sur eBay.
Notre amour est fusionnel, notre relation est magique.
Ce soir dans tes frites, je mettrai de l'arsenic.
Et pour toute la vie, personne pourra nous séparer.
J'aurais dû écouter quand on me conseille d'avorter.
J'adore la fête des mères. C'est le seul moment où les enfants te remercient pour tous les sacrifices que t'as fait pour eux. Enfin, je trouve que c'est le minimum d'une facture à rembourser. Je te rappelle que l'aventure, elle commence par 9 mois de nausée et sans compter le surpoids. Une péridurale, t'as toutes les chances de finir handicapé. Tu dois faire passer un truc gros comme une pastèque de 3,6 kg à minima entre le nombril et l'anus. Et tu devrais t'émerveiller pour la gentillesse d'un mioche qui, une fois par an, fin mai, il t'offre quoi ? Au mieux, un collier de nouilles.
Ah, j'aurais dû te congeler.
J'aurais dû le faire, crois-moi. On devrait se le dire plus souvent. C'est important. Je t'aime, ma petite maman. Ah, j'aurais dû te congeler. J'aurais dû le faire, crois-moi. On devrait se le dire plus souvent. C'est important.
Je t'aime, mon grand enfant.
Et voilà, c'était le mix du jour. C'est vraiment Dodwick. Voilà, bon, on avait déjà diffusé une petite parodie de Balance ton chat pendant le confinement. Et là, c'était un spécial Fête des mères. Voilà.
Même, ça me fait penser, c'est pas très Balance ton porc, le dernier cahier d'Esther, il y a de cette ouf, il y a une planche. À l'école, on voit des garçons qui se comportent avec les filles un peu comme dans le monde d'avant, quoi.
Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est ce que Esther m'en parle beaucoup. Elle a beaucoup de problèmes de sexisme avec les garçons.
Mais c'est étonnant parce qu'on a l'impression que chez les adultes, quand même, ça commence à un peu rentrer. Et là, les enfants
non,
sont.
Non, en tout cas, elle c'est son grand sujet. Ça. Elle, quand elle sort dans la rue, elle se fait.
Ça
embêter,
n'a rien changé. En fait.
En tout cas, elle a changé parce qu'en fait, elle est très attentive au sexisme, etc. Elle ne laisse plus rien passer. Mais les garçons sont des terreurs, quand même, encore aujourd'hui.
Ouais, je pense qu'au collège, c'était quand même. En plus, la découverte de la sexualité, enfin, c'est l'âge où ça devient un peu compliqué. Donc,
oui,
je pense qu'il y a des réflexes.
Je constate.
Non, mais c'est vrai. Mais...
Comment vous avez vécu, Rizatouf, ce confinement? Beaucoup d'auteurs qu'on a reçus ou d'artistes nous ont dit que finalement, pour eux, ça n'avait pas changé grand-chose, ouais. Puisque le travail d'auteur est assez solitaire par définition. Est-ce que vous êtes hypochondriaque ou pas?
Alors, c'est la grande question, je crois.
Hypochondriaque, ça signifierait croire qu'on attrape des maladies imaginaires. Or, ça n'est absolument pas mon cas.
Puisque vous attrapez des maladies très réelles.
Non, moi, j'ai surtout un peu peur. Je me méfie beaucoup des maladies. Et en effet, ça fait des années que j'ai du gel hydroalcoolique. Ah. Quand je suis malade, je mets un masque. Donc, il se trouve que quand il y a eu le confinement, j'étais pas du tout démuni. J'avais des 3 litres de gel hydroalcoolique d'avance. J'avais des masques FFP2. J'ai dépanné des potes FFP2. J'en avais. Oui, tout à fait. Wow. Oui, bien sûr. Et donc, en ce qui me concerne, ça n'a pas changé grand-chose. Sauf que, évidemment, c'est quand même toujours très étrange de voir toute une société qui s'arrête comme ça et ce sentiment de la mort qui semble rôder tout autour de nous. Mais moi, j'ai travaillé, j'ai fait ma bande dessinée, je me désinfectais toute la journée les mains.
Si vous aimez Spike Lee, le footing et Riyad Satouf, je ne peux que vous conseiller de rester à l'écoute d'Europe.